Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme tous les lundis, 19h, 20h30, on va naturellement commenter l'actu foot et puis on reviendra sur pratiquement toute l'actu de ce week-end. Et puis ce soir, on a un invité que je suis ravi donc de recevoir, c'est notre ami Eric Liévin. Eric, bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors, coach mental, c'est ça,
hein? Oui, je fais du coaching mental, voilà. Donc pour l'instant lié aux entreprises, oui. Manager, dirigeant. Et puis je suis en train de travailler sur une partie puisque j'ai fait une option préparateur mental de sportif. Et donc je travaille l'offre pour l'ensemble du monde du sport.
D'accord, donc on aura naturellement l'occasion d'en reparler. On parlera aussi de votre passion pour le football et notamment pour le Paris Saint-Germain.
C'est exactement ça.
C'est ça. Et puis aussi d'un espace Twitter que vous animez depuis combien de temps maintenant?
Depuis la rentrée de la saison, on a commencé, je leur fais un coucou parce que je le fais pas tout seul. On l'a mis en place avec deux passionnés du Paris Saint-Germain, un passionné qui s'appelle Driss et qui avec qui on a monté ce projet en début de saison. Et puis Anthony qui nous a rejoint aussi avec. Et on a une communauté qui commence à passionnés du Paris Saint-Germain et on fait les avant-matchs et les après-matchs sur des spaces que Twitter a mis en place il y a un peu plus de 6-8 mois maintenant et qui marche très très bien parce que les gens aiment se retrouver en communauté et sur Twitter on a cet espace là donc ça s'appelle le Paris Show Game. On fait les avant-matchs et les après-matchs du Paris Saint-Germain
avec un parrain, c'est Jimmy Algerino, hein.
C'est exactement ça, je lui fais un grand coucou, oui. Et je le remercie parce qu'il a fait notre première.
Il nous écoute, je sais.
Ouais, j'espère. Et il a son émission ce soir, il est sur Europe 1 et il suit le Paris Saint-Germain, il est consultant spécial pour le Paris Saint-Germain. Et je lui fais un gros coucou parce qu'il a fait notre première et il est extraordinaire, c'est vraiment quelqu'un de super. Moi je l'ai suivi puisque j'ai l'ancienneté de suivre ce club et mon club depuis maintenant plus de 35 ans et donc effectivement Jimmy Algerino a fait notre première et maintenant c'est le parrain de l'équipe.
Très bien, et puis je vais saluer aussi l'équipe qui m'entoure. Alors il n'a rien raté de l'actualité sport mécanique de ce week-end, c'est notre ami Valentin, bonsoir.
Bonsoir Philippe, ça va?
Ça va, t'es content? T'as passé un beau week-end de sport mécanique?
Un très très bon week-end, vraiment très rempli, MotoGP, rallye, et puis surtout de la Formule 1.
Voilà, et puis lui aussi n'a rien raté des matchs. Hein. De ce week-end, c'est notre ami LG, ça va?
LG. Salut Philippe, ça va et toi?
Ouais, pleine forme?
Ouais, super.
T'as vu des bons matchs?
J'ai eu des bons matchs, et toi?
Ouais. Moi ça va aussi. Et puis je salue donc notre ami Abou. C'est un revenant, hein. Il a beaucoup travaillé, il est parti en Angleterre, il a eu un peu de repos. Et puis maintenant, il est là avec nous. Ça va Abou, tu te prépares?
Ça va toi Philippe, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein, tu te prépares? Deux semaines, c'est long.
Ouais, tu te prépares pour un bon mondial?
Bah franchement, on est prêts, nous. Voilà. On est même totalement prêts.
Voilà. Alors effectivement, donc on va commenter l'actu foot, hein, c'est la tradition. Au début de cette émission, on va finir sur le chapitre Ligue des Nations, puisque la semaine dernière, on avait évoqué deux groupes. Hein, on va finir sur les deux derniers groupes. Eric, vous êtes inquiet pour l'équipe de France?
Alors inquiet au niveau football, pas vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges et notamment parce que les spaces de temps en temps dérivent aussi un peu sur l'équipe de France puisqu'on approche du mondial et beaucoup sont inquiets au niveau football. Moi je suis pas inquiet au niveau football, je pense qu'on a un groupe, on a des joueurs, on a de l'expérience. Par contre ce qui m'inquiète c'est les blessures.
Oui, deux mois de compétition ça paraît incroyable quand même.
Ouais, ça c'est,
deux mois
c'est...
de compétition, il y a déjà des joueurs qui sont blessés.
Ouais, moi ça c'est le côté qui m'inquiète. Avec quel groupe on va partir? Ça c'est le côté qui m'inquiète aujourd'hui. Si on a un groupe, si Didier Deschamps a le groupe qu'il a dans la tête et qu'on n'a pas trop de blessés, parce que là je crois qu'on en est à 9 je crois, qu'on n'a pas pu faire les matchs précédents, ce qui est énorme sur un groupe de 23. Quand on a un ou deux joueurs, ça nous est arrivé sur des pré-coupes du monde ou des pré-championnats d'Europe, ça peut s'interchanger. 9 joueurs, on sait très bien qu'il y a quasiment un 11, 12, 13 toujours de titulaire, et puis après il y a des remplaçants, là ça peut être compliqué. Donc oui. Ça peut m'inquiéter.
Bon, puis vous savez que vous ferez partie de nos consultants, de nos intervenants sur toutes les émissions qu'on va faire pendant le mondial.
Très, très grand plaisir.
On est en train de préparer ça donc en coulisses. Alors, pour revenir donc dans le groupe 2, l'Espagne a déjoué quand même un petit peu les pronostics. Ils avaient été battus 2-1 par la Suisse, et puis la République tchèque avait été aussi assez nettement battue par le Portugal 4-0. Il y avait un match déterminant. Les Portugais l'ont dominé des trois quarts, et puis l'Espagne finalement s'est imposée dans le dernier quart d'heure, gagnée 1-0, alors que la Suisse battait la République tchèque 2-1. Donc l'Espagne, première de cette poule avec 11 points, devant le Portugal, deuxième 10, troisième la Suisse 9, et quatrième la République tchèque 4.
C'est ça. Moi, quand on me demandait un favori à la Coupe du Monde, je disais l'Espagne déjà.
Ouais.
Voilà. Et franchement, en fait, je me disais, bon, il leur manque un peu d'expérience quand même, parce qu'ils sont assez jeunes, mais franchement, ils démontrent, parce que là, par exemple, ils n'ont pas...
Ils n'ont pas été très convaincants.
Oui,
c'est un peu ennuyé quand même.
Dans tout le match, ils n'ont pas été très convaincants. Ils ont haussé le ton. Voilà. Ouais, Luis Enrique a fait rentrer Gavi et Pedri. Ça a changé le match. Ça a changé le match du côté de l'Espagne. Et tout de suite, boum, boum, boum. Et voilà, ouverture du score. Nico Williams aussi, très très fort.
Les Portugais peuvent avoir des regrets quand même.
Ils peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont dominé. Ils ont eu des occasions. Ils n'ont pas su les concrétiser. Ils ont été punis et c'est le football, c'est dommage.
Voilà, et puis autre groupe qui s'est terminé aussi, c'est l'Italie qui, comme l'Espagne, a su renverser la situation dans le groupe 3, puisque la Hongrie avait gagné en Allemagne 1-0, alors que l'Italie avait battu l'Angleterre 1-0, et dans les derniers matchs, on a eu un match fou, 3-3 entre l'Angleterre et l'Allemagne, et l'Italie qui est allée gagner en Hongrie 2-0, donc l'Italie qui termine première avec 11 points, devant la Hongrie deuxième 10 points, troisième l'Allemagne 7 points, et quatrième l'Angleterre 3 points, ce qui fait que l'Italie, l'Espagne rejoignent donc la Croatie et les Pays-Bas pour le Caradas.
C'est ça, c'est dommage pour la Hongrie parce que franchement ils avaient fait une très belle Ligue des Nations, une très belle truc, et moi franchement j'espérais les voir mais bon après c'est le football, ça reste le football, et l'Italie ont su jouer des bons coups et voilà, ils ont réussi à passer devant.
Ouais. Eric, c'est bien la Ligue des Nations?
Alors,
c'est mieux que les matchs amicaux quand même.
Alors oui, c'est mieux que les matchs amicaux. Après, la problématique, c'est que il faut toujours donner un enjeu pour que ça donne envie aux gens. Et le problème, c'est que ça donne pas. Il y a pas assez d'enjeux. Les gens, ils savent pas le pourquoi des corps. Voilà. Alors, on leur a expliqué que c'était indirectement pour remplacer les matchs amicaux. Ouais. Mais je pense que il devrait y avoir, s'ils veulent donner un intérêt au public, et c'est là le problème aujourd'hui. Après, il y a un problème d'enchaînement de matchs, et ça aussi, il faut le voir, parce que les joueurs font 80 matchs pour ceux qui font les grosses compétitions, sont dans les gros clubs, font entre 60 et 80 matchs par an, donc ce qui est énorme. Le côté, c'est y mettre un intérêt, c'est-à-dire que celui qui gagne la Ligue des Champions, la Ligue des Nations, je sais pas, ça peut être un premier de poule, ça peut être, il peut être qualifié directement si on fait la Ligue des Nations avant les qualifs. Il peut y avoir, il faut qu'il y ait, parce que des équipes, par exemple, comme le disait Nadji, au niveau de la Hongrie, vous voyez, c'est des équipes qui peuvent avoir un intérêt à jouer la Ligue des Nations, de la jouer bien, pour avoir quelque chose derrière où ils ont peut-être plus de difficultés en poule, peut-être à des moments donnés de se qualifier. Quoi.
En tout cas, les quatre équipes qu'on trouve dans le Carada, c'est quand même pas n'importe qui. De grosses nations de football, l'Espagne, l'Italie, plus la Croatie, puis les Pays-Bas, ça va quoi.
Non, cette année, c'est un beau carré. Cette année, c'est un beau carré.
Quoique, ça vaut peut-être pas le carré précédent, parce que France, Espagne, Italie, Belgique, c'était pas mal non plus.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais cette année, année on voit que les Pays-Bas ont retrouvé leur football. Et ça joue vraiment. Alors, comme on disait tout à l'heure vis-à-vis de l'intervention de Ladji, c'est vrai que l'Espagne, avec le milieu de terrain qu'ils ont, moi, Gavi et Pedri, pour moi, c'est le futur du foot. Ça va être essentiel et on a vu leur rentrée. Ça va être très, 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 très bon. L'Italie fait pas la Coupe du Monde, malheureusement, mais on voit que c'est une aberration.
C'est dommage.
On comprend même pas comment ils ont pu couper leur qualif. Et puis la Croatie, ils sont là tout le temps.
Abou, t'en penses quoi, toi, de cette Ligue des Nations, de ce Carédas, de ce qu'il en reste, tout en rappelant que l'Autriche, le Pays de Galles, la République tchèque et l'Angleterre rétrogradent en Ligue B lors de la prochaine édition.
Bah, la Ligue des Nations, moi je trouve que c'est une compétition, c'est une belle, enfin c'est une compétition importante, ça change des matchs amicaux, c'est vrai.
Oui, moi j'aime mieux que des matchs amicaux quand même.
Après, ouais. Pour revenir sur l'Espagne, après l'Espagne, l'Euro, je crois, ça fait demi-finaliste. C'est vraiment une équipe en fait, ouais, qui est, en tout cas moi, je m'ennuie à voir jouer l'Espagne, cette Espagne-là.
Ah, c'est sûr.
C'est très babal, très on fait tourner le ballon, mais c'est une équipe efficace qui au final remporte quand même ses matchs. Le Portugal, ça commence un peu à m'inquiéter. Fernando Santos va peut-être falloir penser à mettre CR7 sur le banc. Moi, je pense que CR7, malgré qu'il soit CR7, devrait peut-être débuter sur le banc avec le Portugal. Il y a quand même un trio offensif au Portugal qui fait peur à toute l'Europe. Rafael Leao, Diego Jota, Bernardo Silva. Il y a vraiment de quoi faire avec un CR7 en super sub. Je pense que ce serait la meilleure solution pour cette équipe-là. Et pour finir, l'Angleterre, c'est dommage de les voir rétrograder en Ligue B, l'Angleterre. Mais on est habitué avec les Anglais, c'est comme ça depuis plusieurs années maintenant. Ils sont là, mais pas vraiment trop là. Donc au final, ça finit par redescendre. Ouais. Mais c'est dommage, c'est une belle équipe. Et moi, je ne doute pas que l'Angleterre en Coupe du Monde fera un beau parcours, mais ils ne la gagneront quand même pas. Mais ils iront loin.
Bah, Antin, t'as un petit mot, toi ?
Bah, moi, je suis extrêmement déçu de l'Angleterre. Oui. Surtout après.
Comme souvent.
Bah, ouais, malheureusement. Et ouais. Après l'Euro qu'ils avaient fait, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire, un effectif à renouveler. Mais les bases sont là, sont présentes. Malheureusement, ils sont pas du tout solides et on voit ce que ça fait l'Angleterre face même à l'Allemagne. Ils tiennent le match à la fin du match et malheureusement ils se font rattraper. C'est décevant. Et puis après, pour revenir sur ce que disait Abou sur l'Espagne, c'est vrai que c'est ennuyant à voir jouer, mais c'est vrai que c'est toujours efficace. Et je pense que l'Espagne peut faire très très mal à cette Coupe du Monde. Donc vraiment, en plus avec des jeunes qu'ils ont dans l'effectif. Et le Portugal, Ronaldo n'est pas en confiance du côté d'United, donc ça va être compliqué au Portugal de le mettre toujours titulaire, et que si en plus il plante pas ou qu'il fait pas une passe D, il va être remis en question très très vite. Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais on espère que le Portugal fera une belle compétition aussi quand même.
Je pense que moi ça peut aller, excuse-moi Philippe, je pense que ça peut aller pour Cristiano Ronaldo, mais on l'a si bien dit, avec Manchester United, il ne joue pas. Mmh. Il arrive à 37 ans. Quand tu arrives à cet âge-là, tu es obligé de jouer régulièrement pour garder le top niveau.
6-3 ce week-end, hein, dans le gros match.
6-3 ce week-end, et il ne l'a pas fait rentrer. Hein. Il a dit
6-3 pour Manchester City.
Il n'a pas joué Cristiano Ronaldo. Il lui a dit, et il a dit pourquoi je ne l'ai pas fait rentrer par respect pour sa carrière. Bah, pour respect pour sa carrière, comme il dit, normalement, il ne devrait même pas le mettre sur le banc. Quoi. Ou du moins, si tu le mets sur le banc, en tout cas, l'été d'avant, il voulait partir, il aurait dû le laisser partir. C'est ça que je comprends pas, en fait. Voilà, s'il dit qu'il a du respect envers Cristiano Ronaldo, il aurait dû soit le laisser partir, soit maintenant, il peut pas dire je le mets sur le banc parce que ceci ou cela. Voilà.
Alors, avant donc de revenir sur le championnat de Ligue 1, on va finir cette semaine internationale avec un match qui était au Parc des Princes, qui semblait plutôt sympa. C'était donc Brésil-Tunisie, 5-1 à l'arrivée pour le Brésil. Mais on peut regretter une nouvelle fois les débordements qu'il y a eu dans le public. La fête a été gâchée, messieurs. Hein, alors que, on était venus pour voir un match de foot. Et surtout, Marquinhos et Neymar en train de jouer au Parc des Princes dans notre maillot.
Bah ouais, c'est vrai que c'est dommage. D'abord, il y a cet hymne qui est sifflé.
Ouais, ça, c'est pas bien.
Ouais, il n'y a aucun hymne au monde qui mérite d'être sifflé. Ensuite, il y a ces jets de bananes sur le terrain. De la part des supporters tunisiens. Il y a également des problèmes en tribune avec certains drapeaux qui sont sortis, qui ne sont pas acceptés par les sécurités, etc. Et c'est dommage de voir ça. Et surtout, ce qui est dommage, c'est de voir ça encore une fois en France, en fait. C'est encore dans nos stades que ça se passe. Et même quand ça concerne d'autres pays, c'est quand même sur le territoire français que ça se passe. C'est de la part de supporters qui sont français.
Il y a eu des graves débordements en Indonésie ce week-end, malheureusement.
Ouais, avec plusieurs morts aussi. Ouais, mais heureusement, en France, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais va falloir faire attention. Il faudra que le pouvoir public prenne vraiment la question à bras-le-corps.
Eric, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on va parler de la charte du supporter dans les clubs tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pensez ? C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de débordements en France. Hein.
Moi, le côté, c'est que ça devient un vrai problème. Et je voudrais dire, parce que aujourd'hui...
C'est le reflet de notre pays ? On est trop laxiste dans la justice ?
J'aime pas trop ces raccourcis-là, raccourcis que les politiques font très vite. Et moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, puisque je suis intervenant en école de commerce aussi. C'est des raccourcis qui sont trop, trop rapides. Je pense que le football, ça a toujours été. C'est-à-dire, le football, c'est un produit de passion. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez, moi, je sais que quand je rentre dans un stade, je suis pas le même à l'intérieur que quand je ressors. Parce que des fois, fautes me font partir. Voilà, un arbitrage me fait partir. Mais
oui, puis je coupe. Ce qui est remarquable, c'est que tous les milieux sociaux se retrouvent.
Et ça, c'est
même
extraordinaire.
Temps, au même endroit.
C'est ça le côté du foot. Hein,
vous
c'est
pouvez être chef d'entreprise, employé, chômeur.
Mais c'est ça
vous
qui
êtes tous ensemble et voilà.
Mais ça, c'est
toutes les mêmes réactions. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est ouais, ça, c'est la vertu du foot. Oui. Mais par contre, le côté, c'est que les jeunes aujourd'hui ne mettent pas la nouvelle génération ne met pas toute sa passion dans les stades là où ils devraient la mettre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, vous voyez, nous on a par exemple une animosité entre Paris et Marseille.
Ouais.
Mais cette animosité, elle reste à l'intérieur du stade.
Oui,
elle peut être de
voilà.
La véhémence, etc. Mais dès qu'elle est à l'extérieur, dès qu'on commence à rentrer sur des bagarres, sur des choses, etc. On n'est plus dans le sportif. Et ça doit pas être dans le foot.
Et ça, c'était parce pas que
le foot. Oui, mais il y a eu le Ezel, très longtemps et autres. Il y a eu, mais moins longtemps. Et là, ça revient de plus en plus.
Alors, les jeunes n'ont pas connu ça, mais nous, on est d'une génération où certains m'ont dit, on était lyonnais le samedi et stéphanois le mercredi.
Ouais, alors ça c'est
ça une paraît incroyable
génération.
Quand même. Hein.
Moi j'ai jamais connu ça malgré
ça
ma génération.
Ça paraît incroyable quand même de nos jours. Hein.
Ça moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose qui est dur pour moi mais.
Oui non mais ça paraît incroyable quoi.
Ouais bien sûr hein? bien sûr. Mais le côté aujourd'hui ce que moi le seul message que je veux passer j'ai rien à apporter à personne vis-à-vis de ça. Je suis pas la voix de personne mais je voudrais dire aux jeunes allez dans un stade vis-à-vis de la passion vis-à-vis de la beauté du jeu supportez une équipe soyez derrière. Voilà, vous pouvez avoir des paroles, c'est ça, les personnes qui ne comprennent pas ne sont jamais, n'ont jamais eu la passion du foot.
Il y a des paroles limites quand même.
Oui, il y a des paroles limites, bien sûr qu'il y a toujours des paroles limites, mais vous savez, quand vous êtes pris par la passion, moi ça me fait rire parce que quand les politiques parlent de ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais montés dans une voiture avec quelqu'un, et dans une voiture avec quelqu'un, quand quelqu'un vous prie de la priorité, en gros, vous ne lui dites jamais rien dans votre voiture. Non, ça, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc tout le monde le fait. Donc dans un stade, il faut aussi le comprendre. Par contre, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir que le foot est une passion et que ça doit sortir du corps à au niveau d'une passion et de l'envie, mais ça doit rester un spectacle. Il y a des enfants, il y a des familles, et il faut qu'on rende le spectacle beau à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Et effectivement, ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment problématique.
Voilà. Allez, on va parler du championnat de Ligue 1. Bah, vous êtes contents, hein, le Paris Saint-Germain s'est imposé devant Nice 2-1 ce week-end. On va donner les principaux résultats. Lorient continue sa belle série en battant Lille 2-1. Victoire de Rennes à Strasbourg 3-1. De Marseille à Angers 3-0. Puis hier, de Lens devant Lyon 1-0. Ça va décidément plus pour Lyon. Donc Paris Saint-Germain premier avec 25 points. Deuxième Marseille 23. Troisième Lorient 22. Et quatrième Lens 21. Et en bas de tableau, Nantes 16e avec Reims 7 points. 18e Brest 6 points. 19 Strasbourg 5 points et 20e Ajaccio 4 points. C'est un début de saison qui vous convient ?
Alors pour mon club oui bien sûr. Après sur le plan comptable oui, après sur le fond on peut en parler.
Ça dure 38 journées, on peut pas.
Oui, non mais
l'essentiel c'est
de côté sans en parler. Mais par contre enfin on serait enfant gâté si aujourd'hui
avec un super coup franc de Messi hein.
Si on se disait il était juste en face de moi donc, quand il a mis son coup franc donc très satisfait. Je pense que Galtier fait du très bon travail. Comme je vous dis, il y a des choses à parfaire et sur lesquelles on peut discuter, mais voilà, on arrive à faire quelque chose et ce qu'il faut voir, c'est comment on va le faire monter, parce qu'en championnat, je pense que ça va continuer comme ça, mais comment on va le faire monter pour la Ligue des Champions.
Ouais. Il y a un beau classico dans 15 jours.
Ah là, magnifique.
Oui,
magnifique, on l'attend.
Marseille. Et le président Ferracci du Paris FC sera là, donc vous voyez, ça sera au lendemain de ce classico et le soir du Ballon d'Or. En plus.
Ah oui, c'est vrai.
Elle agit cette journée de championnat, tu l'as trouvé comment ? 35 buts marqués quand même, hein, et 3 victoires
à l'extérieur.
C'est ce
que j'allais dire, franchement,
c'est bien, on marque des buts.
Beaucoup de buts. Franchement, aussi dans les 5 grands championnats, on a quand même 3 belles équipes qui sont invaincues dans leur championnat et qui sont Lens, Marseille et le Paris Saint-Germain. Voilà, du coup, je pense qu'il y a du niveau cette année. Là, on voit Lorient, 9
c'est
points
la
de plus.
Lorient, quand même.
Ouais, franchement,
c'est
Lorient, 9 points de plus que Lyon. C'est vraiment incroyable.
C'est un très très beau
en 9 journées.
Cette année, c'est un très très beau football.
Je les regarde, franchement.
Et réellement, il faut tirer. On verra si ça continue, mais en tout cas, il faut vraiment tirer un gros chapeau à Lebris, parce que franchement, il fait un travail. C'est sur le terrain, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, vraiment.
Par contre, Strasbourg. D'une saison sur l'autre, ça se passe beaucoup moins bien.
Ouais, Strasbourg aujourd'hui, je pense qu'ils vont jouer le maintien à fond, pas plus. Hein.
Mmh. Valentin, et après Abou.
Bah moi, étant nantais, week-end un peu compliqué.
Gros carton contre Monaco, 4-1, c'est ça.
Wissam Ben Yedder, voilà, c'est Wissam Ben Yedder qui était qui avait du mal cette saison à se mettre en rythme. Là, avec un triplé, je pense que si ça continue comme ça, Monaco peut espérer de remonter un petit peu au classement, parce que c'était très très compliqué le début de saison, moins compliqué que Lyon où c'est vraiment c'est de pire en pire, et c'est ils avaient dit qu'ils allaient viser le haut de tableau. Là, ça va être très très compliqué.
Lyon, ça va devenir critique. La vente du club, là, ça devient critique en plus.
Ça va être compliqué.
Abou.
Moi, en tant que Marseillais, je me suis régalé. Défaite de Lyon hier soir. Non, mais c'était vraiment exceptionnel.
Un week-end parfait.
J'ai regardé le match de l'Olympique de Marseille. 3-0. Mais cette équipe. C'est vraiment formidable ce que Tudor il est en train de faire. On sort un peu de la vanne. C'est vrai que c'est un coach qu'on a beaucoup critiqué. Il va faire peut-être 0 points en Ligue des Champions, mais aller gagner la Ligue 1. Ce qui se passe est formidable cette saison, fille. Faut le savoir.
Gagner la Ligue 1. C'est bien de rêver,
mais vous allez voir ce qui va se passer cette saison. Ça va être formidable. Je pense qu'en Ligue des Champions.
Dans 15 jours, il y a le Classico. Je pense qu'on va se régaler.
Je pense que cette saison en Ligue des Champions, on va se faire ratatiner par tout le monde. Mais la Ligue 1.
Ah, mais je te l'avais dit, ça. Oui. Et là, par contre,
je parle de un coup.
Il me donne un coup, mais bien sûr. J'ai pas oublié.
Mais en Ligue 1, je pense qu'on va le faire. Lyon, c'est plus qu'inquiétant. Il y a Jean-Michel Aulas, va falloir peut-être maintenant penser à licencier Peter Bosz et passer à quelqu'un d'autre.
Je crois qu'il est pas loin du licenciement.
Même 4 défaites d'ailleurs. Il a quand même fait un tweet où il disait apporter son soutien quand même.
Vous savez, c'est quand il commence à soutenir que ça sent mauvais.
Ouais, souvent aussi.
Combien de présidents ont soutenu et deux semaines après c'était la porte.
Ouais, mais je pense que lui ça va pas durer.
Il y a Nice aussi où c'est inquiétant. Lucien Favre. Et par contre Strasbourg, contrairement à ce qu'il a dit, moi je pense que Strasbourg ça va finir dans le top 10, parce qu'en fait c'est une équipe qui joue pas si mal que ça. Moi j'ai regardé leur match contre Rennes. Il y a le rouge qui vient vraiment les tuer, mais sinon c'est eux qui dominent la rencontre. Leur défaite c'est que par un but d'écart. Moi je pense pas que Strasbourg ça finira en dessous de la 10e place, et sinon c'est un très bon championnat, un très bon début de championnat. Ça fait plaisir de voir Lorient à leur niveau avec Enzo Lefebvre, franchement formidable joueur. C'est vraiment un joueur, il y a du miel dans les pieds de ce joueur là et on espère que ça va continuer comme ça. On aime cette compétitivité là en Ligue 1.
Eric, vous aimeriez un deuxième club parisien? Bon, on va parler de la Ligue 2 là, avec le Paris FC.
Alors, moi j'ai toujours eu sur ce sujet, c'est un sujet controversé chez les Parisiens. Il y a des Parisiens qui disent non et autres, etc.
On est le seul pays d'Europe.
Moi j'ai connu les époques où il y en avait, puisqu'on avait le Matra Racing et le Paris Saint-Germain. Et puis il y avait le côté où il n'y avait pas les mêmes moyens et c'était un petit peu différent. Mais moi de toute façon, je suis partisan d'un championnat fort. Le fait que le Paris Saint-Germain écrase le championnat, effectivement, au nombre de titres et chaque année, ça fait plaisir. Mais un championnat fort, c'est important. Un deuxième club à Paris, moi, je pense que c'est important. Ça serait bien. Et voilà. Et puis, avec d'autres équipes qui se renforcent et qui amènent. Parce que moi, ma problématique, c'est qu'on le voit. Pendant des années, j'ai entendu le président Aulas dire le Paris Saint-Germain, avec club d'État, avec l'argent qu'ils ont, c'est normal qu'ils gagnent le championnat. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vois chaque saison, c'est que on peut dire ça si vous finissez derrière à 6 points du Paris Saint-Germain. Vous avez 2 matchs contre le Paris Saint-Germain, 2 fois 3 points. Donc si vous finissez à 6 points, vous pouvez. Mais chaque année, ils finissent à 19, 15 ou 20 points. Ouais. Donc ça veut dire que ce n'est pas le problème des Qataris, c'est le problème de l'équipe en elle-même.
Surtout même ce qui me fait rire aussi, je ne me rappelle plus, Abou, peut-être que tu l'as, je ne me rappelle plus, il y avait quelqu'un qui était en conférence, je crois que c'était le directeur sportif de l'OL. Je pense que c'était le directeur.
Je m'en souviens.
Tu t'en souviens?
Oh oui, Bruno Chéroux, je m'en souviens.
Voilà, avec le recrutement, il se vantait du recrutement qu'il avait fait.
Et je peux te dire mot par mot ce qu'il a dit. Voilà. Il y a peut-être certains clubs en Ligue 1
qui sont jaloux de notre mercato.
Leur entraîneur est parti parce qu'ils sont jaloux de notre mercato. Alors qu'on est au 1er juillet, Bruno Chéroux, ton équipe vient de finir 8e.
Et ils ont recruté que des anciens joueurs de l'OL. Surtout, c'est ça qui est.
Et ils comblent pas les vides. Ils recrutent pas de défenseurs centraux.
La Cazette, je comprends pas déjà pourquoi la Cazette est venue, en sachant qu'il y a Dembélé qui est un monstre. Il revient de blessure, il marque, il sort de blessure, il marque, il rentre en jeu, il marque. En plus, je comprends pas en fait pourquoi on met Lacazette, et j'ai pas compris aussi pourquoi Dembélé était pas dans l'équipe hier avec Lyon. J'ai pas compris.
Et surtout, on comble pas, il n'y a pas de numéro 6. C'est on n'a pas recruté de numéro 6, on n'a pas recruté de défenseur central.
C'est n'importe quoi. Voilà.
Offensivement, je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour les joueurs offensifs qu'il y a à Lyon. Mais Karl Toko Ekambi, c'est un coup sur deux, c'est un formidable joueur, une fois tous les 4 matchs.
Gaffe, hein, c'est pas en
oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai mis les formes d'abord, avec tout le respect que j'ai. Il y a Tête aussi qui vient du championnat ukrainien, je crois, ou russe. Mmh. Qui aussi a du mal, il est là quelquefois, c'est bon, mais Lyon cette saison ça va être très très compliqué. Ouais. Et je pense que Papi Aulas doit laisser la place.
Bah oui, moi je pense que
déjà, merci à lui pour tout ce qu'il a fait.
C'est ce qu'il est en train de faire. Hein.
Ouais, plus ou moins, mais ouais, j'espère que Lacazette déjà lui il sera plus sur le banc et faire venir Moussa Dembélé, je pense déjà ça va changer déjà, je pense, un minimum.
Alors, la Ligue 2, donc le Paris FC a quand même été gagné à Nîmes 1-0, victoire d'Amiens à Rodez 1-0, nul entre Dijon et Le Havre 0-0, Valenciennes qui bat Sochaux 2-1 et Saint-Etienne qui concède le nul à domicile devant Grenoble 2-2. Ce soir, il y a Laval-Bordeaux à 20h45. C'est Amiens qui est en tête avec 20 points devant Sochaux, Le Havre 19 points, Bordeaux 4e avec Guingamp 17 points. Et puis, le Paris FC 10e avec Grenoble, donc vous voyez, avec 13 points. Et le 18e, c'est Saint-Etienne, Nîmes et Niort, 8 points. C'est vrai que la Ligue 2, le championnat, il est relevé. Il n'y a pas beaucoup d'écart quand même. Hein.
Non, c'est un championnat, effectivement, cette année, déjà avec les descentes de Saint-Etienne et de Bordeaux, qui ont envie de faire l'ascenseur. On va voir s'ils vont réussir. Mais on sait très bien que des gros clubs qui descendent en Ligue 2, si la première année, ils ne montent pas, ils ne remontent pas, ça peut être compliqué. Auxerre. Ça doit faire 7 ans, je crois, qu'ils sont en Ligue 2. Donc, si on remonte pas, donc je pense que ça élève le niveau. Et puis, il y a des équipes aussi qui commencent à retrouver un petit peu du sang. On voit que Amiens retrouve de belles couleurs de foot. Cette année, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et je pense que ça va être un championnat qui va être. Surtout que la problématique, c'est qu'en Ligue 1, il y a 4 descentes. Donc le côté, c'est qu'il y aura la même chose de l'autre côté. Je crois qu'il y a 4 descentes aussi en Ligue 2. Tout le monde va se battre pour les points. Donc je pense que ça peut être une saison en Ligue 2 qui peut être très intéressante à regarder.
Et en tout cas, pour l'instant, début mitigé pour le Paris FC. On en reparlera avec le président Ferracci dans 15 jours, puisque Paris FC est donc 10e avec Grenoble, 13 points. Alors le national, ça nous intéresse aussi. Hein. On a un club qui est voisin ici. 8e journée, ce sont donc le Paris Atlético qui a été battu par Martigues, donc 3-2. Le Puy a été battu à domicile par Restart 2-0 et nul entre Borgo et Versailles 1-1. Donc c'est Dunkerque qui est en tête avec 15 points, devant Martigues Restart 13 points. Il y a 6 équipes à 12 points, dont fait partie Versailles. 16e Borgo, Paris Atlético 6 points et 18e Saint-Brieuc 4 points. Abou, ça commence à devenir critique pour nos amis du Paris Atlético. Hein.
Ouais, c'est vrai que ça commence un peu à se compliquer pour les hommes de... J'oublie le nom du coach, là, il m'échappe. Jean-Guy Wallem, ça commence à devenir compliqué pour les hommes de Jean-Guy Wallem, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, ce qui est étonnant dans ce championnat, c'est qu'entre le Paris Atlético et le 6e, il n'y a que 6 points. Entre Paris Atlético et Orléans, qui est 6e.
Il y a 6 équipes à.
Voilà, il n'y a que 6 points. Dans le contenu, le jeu, il est là. Après, malheureusement, ce qui pêche au Paris Atlético, c'est la finition. Ils ont perdu leur joueur de finition et ça, c'est vraiment dommage parce que là, même là, le match contre Martigues.
Ils n'ont pas fait un mauvais match, il paraît.
Bah oui, tu perds 2-0, tu reviens à 2-2. À la mi-temps, t'es à 2-2. Normalement, c'est le moment de dire à ton équipe, on est revenu quand même à 2-2. Maintenant, il faut enfoncer le clou. Mais non, en retour de mi-temps, on prend ce 3e but et c'est dommage. Mais va falloir se battre. Ça va être long jusqu'à la fin. Mais moi, je vous l'ai dit, en battant le Red Star, je pense que cette équipe. Je disais qu'après la victoire contre le Red Star, ils vont se maintenir en national et je suis toujours dans cette optique-là et on leur souhaite en tout cas.
Voilà, en tout cas.
Bah, franchement, moi je pense aussi qu'ils vont quand même s'en sortir, mais en tout cas ça commence à être très difficile quand même, faut le dire aussi, voilà, parce qu'ils sont quand même la pire attaque de national, voilà, c'est quand même la pire attaque, ils sont quand même à 5 buts en 8 journées, voilà, et du coup faudrait à un moment ou un autre que les attaquants se réveillent un peu et qu'ils font leur travail, quoi, qu'ils font leur boulot, qu'ils se réveillent, quoi.
Ouais, alors voilà. Prochain match, mercredi prochain, le 12 octobre, contre le Puy, donc au stade Boutroux.
Voilà. C'est ça.
Et il nous commentera ça sur Twitter, notre ami.
C'est ça, le match sera commenté par ma personne sur Twitter et le compte Instagram également.
Voilà. Un petit mot, Valentin, et ensuite on va parler du basket et du volley parce que ça s'est pas bien passé aussi pour nos clubs locaux. Un petit mot sur le Paris Atlético. Début très difficile. Hein. Début moyen pour le Paris FC et très difficile pour l'Atlético.
Bah, c'est maintenant qu'il faut se réveiller parce qu'après, ça va devenir très compliqué de rattraper le retard engendré. Mais je ne sais vraiment pas quoi dire. Sur. J'ai vu vite fait la fin du match qui s'est passé là, contre
Martigues.
Et c'était vraiment c'était très très compliqué. On sent qu'il y a quelque chose qui, dans les 25 derniers mètres, ils ont vraiment du mal à concrétiser. Et là, bon, il y a eu 3-2. Mais c'est vraiment. Je sais vraiment pas quoi s'ils vont y arriver. J'espère pour eux en tout cas, parce que là ça devient de plus en plus compliqué avec juste 6 points.
En tout cas, Eric, le Paris Atlético, c'est le troisième club parisien de football. Après le PSG et le Paris FC. C'est un club de quartier pour beaucoup. Nos jeunes y ont joué.
Mais donc, qui joue alors qu'on a des difficultés, mais c'est un peu normal aussi. Il y a une question de budget hein. il y a sur le côté du national. Mais ils jouent leur championnat. Je pense que leur objectif, c'est je vais pas être minimaliste à ce niveau-là, et je pense que c'est la raison, c'est pas de monter, mais avoir un objectif déjà de se maintenir et d'être en milieu de tableau. Moi, je pense qu'effectivement, s'ils se réveillent, comme le dit Ladji, la grosse problématique aujourd'hui, c'est de voir qu'en fin de compte, ils ont marqué 5 buts. C'est pas possible. Je veux dire, vous pouvez pas vous maintenir si vous marquez pas de but, parce que vous allez en prendre. Et donc le coach doit travailler sur ça et doit maintenir ça, parce que ça doit être intéressant de pouvoir maintenir ce club, et je pense qu'ils ont des possibilités. Il faut juste que offensivement ça soit un peu meilleur, quoi.
Alors, à part le Paris FC, ça s'est pas bien passé pour nos clubs du coin, puisque je l'ai dit, donc le Paris Atlético a été battu. Mauvaise semaine aussi pour le Paris Basketball, Ludovic, qui a été battu. Hein. Ils ont déjà été battus assez nettement à Nanterre mercredi dans le derby 97-83.
Ça, c'est mon équipe.
Ensuite, défaite à domicile à Carpentier pour son match, donc 104-99 contre une étonnante équipe de Blois. Donc pour l'instant, le Paris Basketball est dernier du championnat avec Limoges et donc le Portel.
Trois défaites d'affilée. Défaites vraiment. Je dis que c'est des défaites débiles dans le sens où c'est quelques points. Il leur manque vraiment quelque chose en attaque.
Enfin, à Nanterre, c'était assez large quand même, hein, 97-83.
Oui, mais sur l'ensemble du match, il y a des schémas de jeu qui ne sont pas appliqués. On sent que le meneur, dès qu'il se retrouve à mettre son plan de jeu en face, c'est une perte de balle, c'est des joueurs qui se placent mal, c'est le pied sur la ligne, c'est des petites erreurs débiles qui du coup leur amènent à un retard. Et là, le dernier match face à Blois, on le voit, genre, ils ont vraiment une possibilité dans le troisième quart de rattraper leur retard, et malheureusement encore des petites erreurs, des changements qui sont faits au mauvais moment, on sait pas pourquoi, des pertes de balles et 3 défaites d'affilée, dont 4 si on compte celle en Coupe de France. Donc là, c'est vraiment compliqué pour le Paris Basket.
Bon, on va aller les voir sur Roland Garros. Donc ça sera PSG Monaco. On ira les voir juste avant ça sera Paris Basketball Monaco avant le PSG Marseille. Ça sera le 16. Voilà. Donc il y aura une belle journée. Il y aura le basket et après le foot dans la soirée.
Si
voilà.
Tu me permets, moi, je suis nantérien de naissance. Donc,
On a parlé de volet parce qu'ils ont. Nantes-Rézé a battu le Paris 3-0.
Et Nanterre a fait des grosses saisons. Oui, ils ont un petit retard au démarrage. Moi, je les encourage fort parce que depuis des années, ils sont partis de rien. Il faut savoir que Nanterre, c'est 100 000 habitants. Ils ont réussi quand même à faire beaucoup de play-offs. Ils sont partis en finale de Coupe de France plusieurs fois à Bercy, et ils ont gagné des championnats. Et réellement, c'est pas Limoges, c'est pas Pouartès avec l'ancienneté de ces clubs-là. Et Nanterre, je suis fort derrière eux parce que, avec un petit démarrage compliqué cette année.
Ils ont un président très sympa, Monsieur Donavio.
Est en famille, puisque l'entraîneur est de la même famille.
D'accord, très bien. Et voilà pour le point foot. Et puis le point. Donc,
on n'a pas parlé de Ligue des Champions, mais
ça arrive semaine, donc on en parlera la semaine
ça
prochaine.
Arrive cette semaine. Mais j'ai des petits pronostics.
Allez, vas-y.
Bon, Abou, je pense qu'Abou il va me le donner parce que franchement, parce que avant même que les tirages ne tombent, j'ai dit si vous tombez contre le Sporting Marseille, est-ce que tu penses que vous pouvez battre le Sporting? Abou, je te repose la question.
3-1 Marseille.
D'accord, c'est
dans la boîte.
C'est noté. Bon, ok.
De toute façon, on l'a vu tout à l'heure sur le côté de gagner le championnat. On sait qu'on s'enflamme beaucoup sur la canne-bière comme d'habitude. S'enflammer sur un 3-1 contre le Sporting, effectivement, c'est.
Je tiens à dire aux auditeurs que je suis prêt en sandwich. Là, il y en a un à ma gauche, un à ma droite. C'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué pour moi. Je me sens intimidé.
Sérieusement, en tout cas, je pense que Marseille vont pas. Bon, peut-être ils vont réussir à mettre un but sur penalty. au mieux, voilà, contre le Sporting, mais c'est le Sporting qui vont gagner au moins de 2 points parce qu'ils sont pas favoris en plus, hein. Donc allez miser sur eux avec une cote à 3,20. Bon, le PSG vont battre le Benfica, Mbappé buteur, je pense aussi. Et Lewandowski buteur aussi avec avec Barcelone contre l'Inter, et je pense qu'ils vont battre.
Tu nous rembourses si se passe pas tout ça parce qu'on t'a écouté, on va aller mettre de l'argent.
Mais moi je gagne à chaque fois. Attention, du coup, viens pas me porter ta poisse, toi, reste de ton côté. Déjà, t'as dit tu vas miser Marseille, mise Marseille 3-1 et on verra.
Voilà. En tout cas, bon.
Attention à Benfica.
On en parle.
Attention à Benfica.
Benfica, ça joue au football.
C'est très très fort Benfica, mais j'ai confiance.
On en reparlera. Surtout au stade du Grand.
Faire
attention, c'est pas
pareil. On en reparlera la semaine prochaine, donc au niveau des Coupes d'Europe, dans notre point foot. Je vous laisse annoncer la première pause musicale. C'est Phil Collins.
Ah oui, c'est Phil Collins, c'est la chanson d'entrée au Parc des Princes, mythique, qui a bercé c'est l'ensemble de ces dernières années, et puis qui encense les joueurs au niveau du parc.
C'est comment vous savez, non ?
Voilà, c'est
pas grave. Allez, c'est Phil Collins, et puis
c'est parti. Voilà.
Alors cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions des semaines précédentes. Et puis on va avoir d'ici quelques minutes quelqu'un que vous connaissez bien, c'est notre ami Stéphane Desenclos.
Totalement, je le connais bien.
Du sport, c'est notre partenaire, ouais. Donc on va l'avoir dans quelques minutes. Cette musique, ça laisse pas indifférent quand même.
Ah bah non, c'est impossible.
Ça donne la chair de poule.
Ça donne des frissons, je pense, ouais. Que les joueurs, quand ils rentrent, effectivement, ça leur donne aussi. Ouais. C'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à tous les supporters parisiens ce soir pour leur mettre ce petit son qu'ils ont l'habitude d'avoir au Parc des Princes.
Alors, le foot féminin, ça vous intéresse aussi ?
Oui, moi,
parce
ça m'intéresse.
Justement, on voit aussi, parmi toutes les résultats qu'on vous donne chaque semaine, on s'intéresse aussi au championnat féminin. Alors, le Paris Saint-Germain est allé faire nul au Havre 2-2. Ouais, victoire du PFC à Dijon 2-0. Et puis, victoire de Lyon devant Rondelle 2-0. Lyon en tête avec 12 points, devant le PSG et le PFC 10 points.
Ouais, voilà. Les filles ont fait un gros match et ils sont fait rattraper vers la fin. Et c'est dommage parce qu'ils perdent 2 points et on sait que chaque année, avec Lyon, la bataille, elle est serrée. Et donc, ces points-là, ils vont être durs à rattraper. Donc, bon, voilà, le championnat n'est pas fini. Les filles, je pense qu'elles vont se battre jusqu'au bout et on va les soutenir à fond. Mais effectivement, c'est 2 points qui sont un peu dommageables à perdre, quoi.
Ce qui s'est passé actuellement là, au sein du Paris Saint-Germain féminin,
catastrophique.
Ouais, c'est quand même
c'est incroyable.
Ça paraît catastrophique quand même.
C'est catastrophique. Et des fois, je me dis, mais en fait, est-ce que ça n'arrive pas à chaque fois que chez nous, quoi ? C'est-à-dire que tous les ans, on se dit, on va avoir une saison saine, tranquille, et à chaque fois, on a un truc. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est la capitale qui cristallise ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais ouais, catastrophique. Au niveau communication, à tout niveau. Enfin, je trouve que là, on est rentré dans quelque chose d'extra-sportif qui est aberrant.
Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup d'extra-sportifs en ce moment dans le monde du foot. Hein.
Et ouais, Philippe, moi, je voulais en profiter pour faire mon mea culpa. C'est vrai que la saison dernière, je me souviens, j'ai été souvent très, très dur avec Keira Mraoui. Et en fait, ça nous a prouvé encore une fois que quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une affaire, vaut mieux se taire. On a tous pensé qu'au début, que Kaminata Diallo était innocente. Puis finalement, on voit que ce serait pas tant le cas. Et c'est vrai qu'Amraoui, elle en a énormément souffert. Et faut pas oublier que c'est elle la victime avant tout. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a eu tendance à oublier l'an dernier. Donc bon rétablissement à elle, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce qu'elle a traverser quand même chose de très difficile, et on espère que la justice sera rendue, et même si ce qu'elle a vécu, il y a rien qui pourra l'effacer, quoi.
Et ce que tu dis, c'est important parce que en fait, nous, sur les spaces, il y a beaucoup de spaces maintenant sur Twitter, on en reparlera tout à l'heure, mais en fait il y a beaucoup de spaces, et aujourd'hui ce qui intéresse les gens, c'est un peu malheureusement le gossip, et nous on s'interdit ce côté-là parce que le gossip, c'est toujours beaucoup de rumeurs. On n'a jamais l'ensemble des infos, donc parlons foot. Allons sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qu'on a vu, ce qu'on pense voir, et restons dans le côté du foot, parce que tout l'extra-sportif, on voit, ça fait des dérives qui sont vraiment pas top.
C'est vraiment le plus important, parce que moi je me souviens encore l'année dernière des mots que j'ai eu pour Keira Mraoui, et limite la rendre responsable de ce qui se passe au Paris Saint-Germain.
Comme quoi, il faut toujours rester méfiant.
Toujours raison garder, ça.
Ça, c'est des leçons de journalisme.
C'est ça. C'est une bonne leçon pour tout le monde, même pour le métier de journaliste, c'est vrai que. Voilà, ne pas se précipiter. On lui souhaite en tout cas tout le meilleur du monde à Keira Mraoui.
Alors, Eric, cette passion du foot et du PSG, elle remonte comment ? Je crois que c'est un petit peu atypique. Ça commence par l'Angleterre, non ?
C'est ça. En fait, ce que depuis l'âge de 6 ans, je suis piqué par le foot. Je fais du foot. J'adore ça. Je vis foot matin, midi et soir.
Ah oui.
C'est les études. Au départ, c'est pas fait pour moi. Heureusement que je me suis rattrapé après, mais c'était pas fait pour moi au départ. Non, moi, il y avait le foot. Et puis voilà. Et au départ, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Quand j'ai 11, 12 ans, tout ça, je suis supporter du foot en général. J'aime bien l'équipe de Nantes et l'équipe de Saint-Etienne qui explose à cette époque-là. Mais surtout, en fait, je commence à voir des premières images à la télé, Stade 2 à l'époque, notamment d'Angleterre. Et je suis fan de Nottingham Forest qui remonte cette année, qui est remonté cette année et qui, j'espère, va se maintenir. Et à l'époque, Nottingham Forest, c'est un football extraordinaire. Et moi, j'ai des yeux comme ça, je suis devant les images et je me dis ça joue au foot, c'est extraordinaire. Et donc moi, c'est ça, c'est le beau jeu, c'est la passion, et c'est ça. Et puis le déclic, il vient en fait en 86. Je lui fais aussi une petite dédicace, puisque mon ami d'enfance, Eric, qui a le même prénom que moi, en fait, son père a des places pour aller au Parc des Princes. Et il nous emmène tous les deux, donc on a 15 et 16 ans, au Parc des Princes. Et là, j'arrive l'année où en fait, le Paris Saint-Germain va gagner son titre avec Gérard Houllier, qui vient de prendre l'équipe au Paris Saint-Germain.
C'est le premier titre de champion.
C'est ça. Ouais. Et j'arrive là, j'arrive la bonne année ou pas la bonne année, mais même s'ils n'avaient pas gagné le titre, en fait, j'arrive et je vois en fait déjà un maestro sur le terrain. Moi, j'arrive et mes yeux restent sur sa fête physique. Et on parle de Zidane aujourd'hui, etc., etc. Mais pour les anciens, sa fête physique, il avait un ballon collé au pied.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans du PSG de cette époque qui ont gardé avant tout l'image de Fusik. C'est un joueur, il y avait Rai après, mais il y a eu Fusik.
C'était un magicien. Enfin, tout le monde disait que c'était un magicien, et c'est vrai. Et donc, j'ai une équipe, Joël Batz, et le gardien qui arrive et qui sera le gardien de l'équipe de France après. On a une équipe avec des joueurs comme Fabrice Poulain, comme Dominique Rocheteau et à Paris, puisqu'il a fait le transfert de Saint-Etienne à Paris. Et il y a une équipe qui joue au ballon et qui joue vraiment merveilleusement bien. Et moi, ça, plus l'ambiance du parc, parce que l'ambiance du parc, on peut dire ce qu'on veut, c'est extraordinaire, le son reste à l'intérieur. Et en fait, je ressors de ce Parc des Princes et je dis, ça sera mon équipe, et c'est mon équipe, et je suis piqué, mais je sais pas comment, mais voilà, je ressors, et puis ça n'a pas lâché.
Vous avez supporté toutes les époques, et même à l'heure actuelle, on mange, on dort, on vit Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que mon entourage, de temps en temps, l'a subi, dans les mauvais côtés, dans les bons côtés aussi, dans l'euphorie, parce que le côté, ce que je dis toujours, la passion du foot, c'est y a les personnes qui comprennent pas et qui disent, ouais, mais je comprends pas, comment tu peux te mettre dans des états pareils et autres. Mais c'est quelque chose, même moi j'arrive pas à l'expliquer, c'est à dire que ça fait partie de ma vie, c'est à dire que un peu moins maintenant, parce qu'avec l'âge aussi on commence à changer, pas totalement, mais on vieillit un peu au niveau de la mentalité, on s'adapte, mais moi des défaites de Paris la semaine d'après
était... Ah oui, une semaine, ça reste une semaine,
ouais, compliqué. Aujourd'hui, maintenant, c'est deux trois jours, bien sûr. Ouais, moi j'ai connu les années Canal où, de temps en temps avec les côtés Paris-Marseille, effectivement, on vivait des côtés compliqués. Et puis,
il y a eu des belles années. On en parlera d'ailleurs. Parce que pour les supporters du PSG, quand on parle du PSG, ce qui reste référence avant tout, plus que maintenant, c'est les années Canal.
Ouais, parce qu'il
y a eu une histoire européenne qui n'y a peut-être pas encore maintenant.
Bien sûr, il y a eu ça, oui. Mais il y a aussi le côté, on en parle comme ça, enfin les anciens en parlent comme ça, c'est parce que aussi les joueurs étaient très accessibles. Oui. C'est-à-dire moi à l'époque, j'allais au camp des loges, photos à la maison où j'ai pris des photos avec Daniel Bravo, avec Paul Le Guen, avec David Ginola, avec Georges Weah. Les vestiaires du camp des loges, c'était des préfabriqués. Il faut le savoir aujourd'hui, ils vont avoir un.
À Poissy, chez Carlo Olive, là-bas.
C'est ça. Saint-Germain-en-Laye, juste sur la limite Poissy. Et on les côtoyait, c'est-à-dire qu'on pouvait discuter avec eux à la fin de l'entraînement. On était derrière un grillage, mais on était derrière le grillage du centre d'entraînement, c'est-à-dire du terrain d'entraînement. Donc c'était plus ça. Et puis il y a eu des folles journées de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe, autre que la Ligue des Champions aussi, notamment le PSG Real Madrid au Parc des Princes où j'étais, et qui est
un match mythique. Hein.
C'est un match à la fois mythique et à la fois cardiaque.
C'est pour ça qu'il est mythique.
C'est-à-dire que Zamorano, quand il marque, vous êtes en PLS, c'est fini, c'est terminé. Et vous baissez la tête. Moi, je me rappelle, je baissais la tête, j'étais limite à avoir des larmes qui arrivaient en se disant c'est pas possible, des larmes de rage. Et puis vous relevez la tête, vous dites bon, voilà, pour ceux qui sont sortis du stade. Malheureusement, ils n'ont pas vu ce qui s'était passé. C'est pour ça que je dis toujours aux supporters, même si vous prenez au bout d'un moment des buts et des buts et que c'est dur, restez jusqu'à la fin du match, c'est toujours important. Et puis la tête de Camboire, et qui délivre tout. Et là, le stade, j'ai jamais vu un stade exploser comme ça s'est passé. C'était extraordinaire.
Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a un petit peu moins d'ambiance au parc. Il y a eu la sélection un petit peu par l'argent. On parlait justement de la charte du supporter. Il fallait faire le ménage, Eric.
Alors, totalement. Alors, le ménage, moi, j'appelle pas ça faire le ménage. Il fallait. Je sais que les supporters.
Certains clubs ne l'ont pas fait.
Oui, bien sûr. Et si on voit sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le côté des supporters et des débordements, mais moi, j'appelle pas ça ménage parce que le côté, c'est qu'il fallait prendre des décisions. Je sais que j'en discute souvent avec des supporters de Paris qui sont. pas d'accord avec le côté du plan Le Prou ou autre qui a été mis en place.
À l'époque, il y avait quand même c'était essentiel. C'était essentiel. Il y avait des gens qui mettaient la croix gammée.
Mais
quoi,
c'était essentiel.
Ils venaient pas pour le foot.
C'était
quoi.
Pas possible. Et non, il y a eu deux morts.
Il y a eu donc des morts dans les rues, bien sûr.
Donc c'était essentiel. Après, le côté, c'est que le problème d'aujourd'hui, c'est que s'il faut que comme ça s'est passé en Angleterre, s'il faut qu'on règle ça par le côté des prix de place exorbitants, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Oui, oui.
Un abonnement, c'est cher aussi.
Mais le problème, alors un abonnement, c'est, enfin, les abonnements sont.
Il y a des gens qui s'endettent, hein, il faut
savoir. Oui, non, mais bien sûr. Mais les abonnements, le côté, c'est pas le problème des abonnements. L'abonnement, il a un certain prix vis-à-vis du standing de l'équipe et ce qu'il y a. Ça, voilà. Mais le côté, c'est qu'aujourd'hui, c'est le prix de la revente des places qui est une vraie problématique. Parce que en fait, le club en a fait un. Voilà, je comprends. Hein, il y a des choses à payer ou autre, etc., etc. On a fait un business de billetterie et en fait, ils prennent une commission sur les vendeurs. Donc, c'est-à-dire si vous avez votre abonnement et que vous voulez vendre, et ils prennent une commission sur les acheteurs. Donc ça veut dire que quand vous êtes acheteur d'un billet qui est à la revente, en fait vous avez double commission. Et donc le prix en fait part de 60 pour celui qui le vend et peut arriver jusqu'à 120, 130. Donc au bout d'un moment, c'est pouvoir des prix à 200, même sur des places, sur des matchs de championnat. Si vous regardez sur Ticketplace, qui est le site de revente, vous voyez même sur des places de championnat, des matchs de championnat et pas de Ligue des Champions, parce qu'on parle toujours de Ligue des Champions sur les prix qui s'envolent, à 250, 260 euros sur un match de championnat. Réellement, tout le monde ne peut pas payer ce prix-là pour aller voir un match.
Oui, c'est ça, le
donc c'est ça la problématique.
Il y en a beaucoup qui sont privés de Parc des Princes, mais d'un autre côté, on y va maintenant en toute tranquillité, en toute sérénité.
Ah ça c'est sûr. Moi je suis abonné, j'étais abonné pendant pas mal d'années, après je suis parti en province et donc j'étais plus abonné, et donc je suis de nouveau abonné depuis quelques années, et c'est serein, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on peut venir en famille, on peut venir avec des enfants et autres. Et puis le côté, je voudrais y mettre quand même un bémol parce que on dit toujours il y a plus d'ambiance au parc. Moi, il manque un deuxième COP, c'est vrai. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, mais moi, je veux tirer quand même mon chapeau.
Bien sûr. Nous, qu'allions au Parc des Princes, il y avait deux COP.
Hein, ouais, voilà. Bien sûr. Mais par contre, je veux quand même tirer mon chapeau au COP Paris parce que ils font un boulot extraordinaire et souvent aussi à l'étranger. Moi, je me rappelle de l'année dernière ou il y a deux ans à Liverpool. Dans
ça fait quelque chose. Hein.
Pour vous dire, le côté, c'est que pour qu'un journaliste anglais dans le journal le lendemain, je ne sais plus si c'était quel journal, peut-être le journal de Liverpool ou le Times ou autre, etc., fasse un billet pour dire que les Parisiens avaient été extraordinaires au niveau des champs ou autre, etc., et avaient été au-dessus des supporters de Liverpool, c'est que pour qu'ils le disent eux-mêmes, c'est que c'est vraiment important. Donc faut leur tirer au cup, mais il faudrait, je pense, un deuxième cup. Moi, je pense que c'est ça. Et puis je voudrais juste faire une petite aparté parce que le cup fait, il y a une partie cup solidarité qui fait beaucoup de choses à Paris sur les maraudes pour les SDF ou autres. Ils font un travail énorme et je veux vraiment leur tirer leur chapeau et leur dire que tous les supporters parisiens sont fiers de ce que fait le cup solidarité parce que c'est un vrai travail et ils le font avec peu de moyens et avec en donnant du temps, même de l'argent. Donc voilà, je voulais.
Vous concertez entre vous, entre club de supporters. Vous faites partie duquel?
Alors moi, je suis pas dans le club. Je suis en quart de virage. D'accord. Mais par contre, on discute, etc. Moi, j'ai un côté ancien puisque j'ai été à Boulogne quand j'ai commencé. Après, j'étais en tribune Paris. Maintenant, je suis en quart de virage Auteuil. Donc voilà. Mais on échange. Moi, j'ai beaucoup échangé avec le club Solidarité. Je suis en train de réfléchir avec eux pour aussi voir ce que je peux leur apporter et comment. On échange beaucoup.
Et d'une façon générale, donc, est-ce que on donne pas trop d'importance à des supporters? Parce qu'on en parle, il y a des clubs aujourd'hui où il y a des véritables dérives quand même pour les supporters. Alors certains ont dit oui, mais on donne trop de pouvoir.
Trop de pouvoir, je pense pas, parce que le pouvoir, il est toujours. Il y a jamais. Enfin, moi, il y a des années peut-être à ce qui paraît, il y a eu, mais je pense qu'il y a plus. Voilà, c'est ça. Il y a des années et encore, moi, je l'ai pas vécu, donc je sais pas. Mais le tapis avait délégué une partie de la billetterie aux supporters.
Pour Bernard Tapie, ouais, c'est un an aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Effectivement, pensez à lui. Le côté, c'est que. Peut y avoir eu à un moment donné, mais je pense qu'aujourd'hui le vrai pouvoir il est quand même dans les clubs. Je pense qu'après il faut prendre les bonnes décisions. C'est surtout ça. Et est-ce que les pouvoirs publics en lien avec les présidents de clubs, quand il y a des dérives, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, moi, le côté qui me pose problème, c'est que j'ai jamais vu encore jusqu'à maintenant, alors qu'il y a des caméras dans tous les stades et qu'on voit, est-ce qu'on a vu à un moment donné un supporter qui avait fait quelque chose vraiment de très répréhensible, être boycotté à vie, interdit à vie de stade. Il n'y a jamais eu.
Oui, c'est ça. C'est peut-être ça le problème.
Un an, six mois,
c'est
etc.
C'est peut-être ça le problème.
Au bout d'un moment, il faut faire des exemples.
Bien sûr. C'est, il faut faire des problème. Exemples. C'est peut-être ça le bien problème. Il y a eu des tas d'incidents les saisons dernières. Nous, on y était à Charletti, Paris FC Lyon. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Là, il fallait sanctionner durement. C'est peut-être ça.
Oui.
Ça passe peut-être par là.
Ouais,
quand
moi, les
supporters prennent trop d'importance, c'est parce qu'on est trop laxiste.
Oui, je pense qu'on ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. Mais les pouvoirs publics aussi, parce que les présidents de club n'ont pas tous les pouvoirs non plus. Hein.
Bien sûr. Une fois qu'ils ne sont pas dans la rue, c'est
cool, ça. Hein. C'est ça.
Ah, oui.
Bah, surtout le pouvoir public, en fait. Parce que même l'an dernier, je me souviens, je pense que c'était un supporter de Nice, pour un Nice OM qui a été condamné. Je crois qu'il a pris un an de suspension de stade, mais la personne est interdite d'aller dans le stade de Nice, en fait. Il est interdit de l'Allianz Arena, il n'est pas interdit du Vélodrome, il n'est pas interdit du Parc des Princes, il n'est pas interdit du Parc OL, etc. Donc je pense que le pouvoir public doit revoir ça et je crois que c'est 3 ans maximum en France ou 5 ans d'interdiction maximum en France, l'interdiction de stade. Faudrait peut-être faire comme les Anglais et faire passer ça à vie.
À vie et puis dans tous les stades de la compétition parce que c'est vrai que tu peux aller dans le stade d'à côté et puis recommencer.
Alors, vous animez en tant que fan du foot, en tant que donc fan du Paris Saint-Germain, un space, Twitter, ça se passe bien ?
Ouais.
Ça marche bien ? C'est pas le défouloir quand même.
Non, alors
parce que c'est ça le risque. Hein.
Ouais, le côté c'est que en fait Twitter a mis en place il y a à peu près 8-9 mois, je pense, un an, je sais pas, mais moi je l'ai vu un peu avant le début de la saison, vers avril-mai, des space audio où en fin de compte un hôte. C'est un peu comme la radio, c'est-à-dire que vous avez un hôte et deux co-hôtes qui gèrent le côté du space. Et puis après, les personnes qui sont intéressées par le sujet.
C'est vous qui avez eu l'idée ?
Non, on l'a eu. Comme je le disais tout à l'heure, avec Driss. Après, Anthony est venu se greffer à nous et on a créé ce côté-là. Et en fait, Driss avait commencé à faire pas mal de space. Et moi, je montais dans ces spaces pour échanger sur le Paris Saint-Germain. Et puis après, on a trouvé qu'on avait une osmose tous les deux, on s'est retrouvés, on est deux anciens et on a une passion effectivement qui se recoupe du jeu et du beau ballon et on a échangé et on a, dans les spaces il y a un peu tout, il y a du space pour du foot, il y a aussi du space où on parle de l'extra sportif et puis à Paris on peut parler on peut en faire tous les jours sur de l'extra sportif parce qu'il y en a tous les jours. Moi c'est moins mon truc.
La priorité, c'est le ballon.
Voilà, moi, c'est moins mon truc. Hein, donc, et donc, on s'est trouvé avec Driss sur le côté où on voulait parler du terrain et du ballon. Et on était sûr que sur Twitter, il y avait à la fois des passionnés, mais des personnes qui connaissent le ballon. Et on ne se retrouve plus aujourd'hui. Et beaucoup de supporters, hein, parce qu'il y a des spaces de Lyon, de Marseille, de plein de choses, etc.
Ah, bon, il va y participer bientôt.
Voilà, et les supporters, en fait, ne se retrouvent plus trop à la radio. Parce qu'en fait, à la radio, on parle beaucoup de... le côté, je parle pas de votre émission parce que l'émission on parle ballon, mais moi j'ai été un très très grand auditeur des grandes émissions comme RMC ou autre par exemple pour pas les citer. Et le problème c'est qu'on parle plus ballon, c'est-à-dire qu'on parle un tel contre un tel et puis l'entraîneur contre ci et puis l'extra sportif parce que ça fait de l'audience.
Oui, ça fait de l'audience. C'est ça, la problématique. Et puis, aujourd'hui on voit tous les matchs.
Oui.
Je veux dire voilà, c'est pas bien, mais aujourd'hui on voit tous les matchs si on veut, on voit tous les matchs.
Et le côté vis-à-vis de ça, c'est qu'on parle beaucoup trop d'extrasportifs. Et donc vis-à-vis de ça, je pense qu'il y a une grosse partie des supporters qui ont envie de parler de ballon et qui ont envie d'avoir la possibilité. Et puis vous vous appelez, c'est le problème de la radio, mais c'est normal. Hein. Vous appelez, c'est un 0800, etc. Il y a je sais pas 1000 personnes qui appellent, il y en a un qui passe. Tandis que là, on fait monter les personnes petit à petit. C'est pas limité. C'est-à-dire que
2 heures, 3 heures,
vous pouvez faire toute la nuit si vous voulez. C'est-à-dire que voilà. Nous on fait un avant-match et un après-match.
D'accord.
Donc on fait en gros les matchs sont vers entre 20h et 21h donc on fait 2h, 2h30 d'avant-match et on fait entre 2h et 2h30 d'après-match. L'après-match peut Driss s'il m'écoute, je pense qu'il m'écoute là, il va avoir un sourire au coin, c'est qu'à chaque fois il essaye de me dire bon là il est 1h du matin parce que les matchs se terminent, il dit il faut couper, alors que moi je pourrais aller jusqu'à 3-4h parce que j'adore ça et quand c'est la passion c'est comme ça, mais c'est pas limité. Par contre, on a le côté, par contre, sur ce que vous disiez, c'est-à-dire, au départ, effectivement, on pensait, est-ce qu'on va pouvoir le gérer ? On peut gérer, c'est-à-dire, on peut couper les micros, on peut exclure les personnes.
Faut pas dire.
Non, mais voilà, on peut couper les micros.
On est là pour parler foot, quoi.
Totalement.
Pas pour le défouler.
Non, totalement. Voilà. On peut, donc c'est très très bien géré, et donc on gère ça. Et nous, maintenant, on a une communauté qui est vraiment parle vraiment de ballon et que moi, je, à chaque fois que je fais un après-match, je suis étonné des retours des auditeurs, des supporters du Paris Saint-Germain qui viennent et qui nous disent voilà, sur la composition, sur la tactique, sur les choses, etc., qui ont une vraie connaissance. Ouais, oui.
Ça, c'est bien.
Et ça, c'est vraiment très intéressant.
D'accord. Donc, c'est avant les championnats, avant la Coupe d'Europe ou après,
tous les matchs du Paris Saint-Germain, en avant et après match. Ouais, on fera tous les matchs.
Très bien. OK. Donc, on va rappeler votre...
Ça s'appelle le Paris Show Game. Donc, on fait des spaces sur Twitter.
D'accord. Donc, allez sur ces spaces sur Twitter.
Et venez avec grand plaisir et vous serez très bien accueillis.
Et vous avez le nombre à peu près de joueurs.
Alors, ça monte en puissance. C'est-à-dire que c'est le début. Mais comme je le dis toujours, je pense que les radios commencent un petit peu à regarder, à être là. Ce qui paraît, ils écoutent. Parce qu'on nous dit qu'ils écoutent. Ils viennent dans les spaces pour écouter.
D'accord.
Donc, les grandes radios. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Je pense à 5 ans, le space sera un des côtés aussi importants que la radio aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, il y a des spaces qui vont de 200. Nous, en pointe, on peut avoir 200, 235 personnes.
Ah oui.
Et ça peut monter. Il y a des spaces quand.
Oui, les spaces de Romain Molina, par exemple.
Voilà, peuvent monter.
Ah oui. Oui,
plein de personnes.
Oui.
Peuvent monter 3000, 4000, etc.
Ah oui, et puis après les matchs de Coupe d'Europe.
Voilà, c'est sur ces côtés-là. Après, vous pouvez faire monter que 13 intervenants. Donc vous pouvez être 5000, mais vous pouvez faire monter que 13 intervenants.
Allez, Late Night Talking de Harry Styles, c'est votre deuxième choix musical.
Ouais, alors ça a été pour un petit peu changer, c'est-à-dire c'est ce que j'écoute en ce moment un petit peu en boucle. J'adore cette chanson et je trouve qu'elle elle fait un petit peu un côté entre la pop d'aujourd'hui et le côté de mon R&B de mon époque. Et donc voilà, effectivement, j'adore.
Allez, on y va.
Haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you.
Late night talking. Voilà, allez, on va maintenant donc enchaîner avec quelqu'un que vous connaissez bien. C'est notre ami Stéphane Dezenclos, donc du quotidien du sport, qui, comme chaque semaine, eh bien, nous présente son coup de cœur, coup de gueule. Stéphane, bonsoir.
En ce lundi 3 octobre, une pensée pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, hein, Philippe, qui doivent être en pleine dépression nerveuse, et je les comprends. Alors que l'OL a subi hier soir à Lens sa quatrième défaite de suite, et glisse doucement dans le ventre mou du classement, déjà à 10 points de l'OM, deuxième, et 9 de Lorient, troisième, Jean-Michel Aulas, lui, continue de dire que tout va bien. Le boss de l'OL est-il déjà devenu sénile, ou s'agit-il tout simplement d'une stratégie de communication? On le sait. Aulas pense sérieusement à des possibles successeurs aux Néerlandais, dont notamment Laurent Blanc. En attendant, on s'est régalé devant la télévision à regarder Lens battre le Lyon et Lorient contre Lille aussi, qui a gagné, deux équipes qui ne calculent pas et qui font honneur au jeu. Et la bonne nouvelle, justement, c'est que qu'elles sont respectivement troisième et quatrième, ces équipes de notre championnat. Le paradoxe de ce début de saison, c'est l'OM, catastrophique en Ligue des Champions, avec 0 point en 2 matchs. Les Marseillais n'ont jamais réalisé un aussi bon début de saison de toute leur histoire. De quoi nous promettre, enfin on peut l'espérer, un classico de folie le 16 octobre prochain au Parc des Princes. En attendant, le défi de l'OL, de l'OM, pardon, et non pas de l'OL, de l'OM, c'est de battre le Sporting demain, qui plus est à huis clos. L'OM de Sanchez et Rongier, pas celui de Payet et Suarez, il en est tout à fait capable en tout cas. Après 2 premières journées très différentes sur la scène européenne, donc place cette semaine à la troisième, ce sera donc qui tout double pour l'OM contre le Sporting, alors que le PSG, oui attention quand même, devra se méfier de cette équipe de Benfica. En Ligue Europa, on ne donne pas cher des chances de Nantes à Fribourg. Rappelons que Fribourg est co-leader de la Bundesliga. Rennes est largement favori, quant à lui, face au Dynamo de Kiev. Et Monaco, qui a bien répété face à Lens ce week-end, justement, doit battre les Turcs de Trabzonspor et se relancer dans un groupe très largement à sa portée. Ça, c'est vraiment une faute professionnelle si les Monégasques ne terminaient pas dans les 2 premiers de leur groupe. Enfin, en Ligue Europa Conférence, Nice n'a pas d'autre choix que de s'imposer en République tchèque face à la modeste équipe de Slovako. Ce qui, par rapport à ce que les hommes de Lucien Favre nous ont montré ce week-end au Parc des Princes, est tout à fait dans leur corde. Enfin, pour terminer, un dernier mot sur le boycott de la Coupe du Monde. Eh oui, qui devient autant à la mode que le Mbappé bashing. Pour ma part, c'est décidé. J'ai longtemps réfléchi. J'ai fait un débat d'idées avec moi-même. Et la décision est tombée. Je boycotte. Eh oui, je n'irai voir aucun match de la Coupe du Monde sur écran géant, en plein air, sous la pluie et par moins 2 degrés.
Merci, merci Stéphane. Voilà, le boycott.
Alors moi, je suis
trop tard, puis c'est ridicule.
Non, mais je suis super content de pouvoir parler sur ça parce que je me suis énervé tout le week-end en lisant les messages de nos politiques. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des politiques qui font des messages comme ça de com. Pendant ce temps-là, ils vont comme notre ancien premier ministre voter en jet. Et ça leur pose pas de problème. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est je voudrais à tous les maires la maire de Lille que j'ai vu ce week-end, je vois le maire de Strasbourg, le maire de Marseille. Je voudrais juste leur demander en fait où ils étaient en 2010, puisqu'on a attribué la Coupe du Monde au Qatar en 2010. Donc où ils étaient en 2010? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis de 2010 à 2022? Moi, c'est la question que je voudrais leur faire, parce qu'on ne les a pas entendus. Par contre, aujourd'hui, l'écologie, c'est hype, c'est bien. Alors moi, je n'ai pas de problématique sur ça. Hein. Bien sûr que je trouve que les stades climatisés, c'est une problématique. Bien sûr que je suis à défendre le côté que... Si les travailleurs ont eu des problématiques et s'il y a eu des décès, bien sûr que on est contre ça. Je ne dis pas le contraire. Mais moi, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qu'on a fait pendant 12 ans, puisque la Coupe du Monde a été donnée il y a 12 ans au Qatar. C'est ça qu'il faut savoir.
C'était le 2 décembre 2010.
Exactement, en 2010. Personne n'a rien fait. Et là, aujourd'hui, un petit coup de com', ça fait toujours du bien pour le côté politique, et tout le monde fait. Alors, le côté, c'est que moi, en tout cas, je le dis, je ne vais pas boycotter la Coupe du Monde, parce qu'il y a des joueurs, parce que c'est quelque chose qui fait vivre aussi des personnes. Ce n'est pas dans notre pays, mais je vous assure, s'il y avait le côté dans notre pays, pendant ce temps-là, moi, je veux juste dire une chose, c'est que on parle de tout ça, mais dans le côté, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas les questions quand on vend nos entreprises françaises au Qatar. Ça dérange dérange personne. C'est-à-dire que nos politiques, là, on ne les entend pas parce que ça fait développer les entreprises françaises. Par contre, là, sur le côté de ce qui se passe, effectivement, il faut le dire, mais de là à lancer des boycotts de com, là, franchement, c'est ridicule.
Il y a eu le cas de la Russie il y a 4 ans.
Ridicule. Hein, voilà. Mais bien sûr, à Sochi, il n'y a pas eu de problème.
Jeux,
mais bien
Sochi, pour les Jeux d'hiver et puis les Jeux d'hiver et d'été à Pékin. Bon, bah voilà.
Si vous avez des problèmes, messieurs les politiques, mais moi, je ne parle pas que les politiques françaises, je parle les politiques de tous les pays. Faites les choses au moment où il faut délivrer les candidatures. Dans ce canal, ne les donnez pas et faites du boycott dès le départ. Mais ne faites pas du boycott 12 ans après pour nous dire « on va faire un petit coup de com', ça va faire du bien pour mes électeurs ». Non, je suis désolé, c'est ridicule.
En tout cas, nous, on suivra la Coupe du Monde et on fera des émissions spéciales sur la Coupe du Monde et vous serez avec nous, Eric. Un petit mot sur… on va passer maintenant sur le préparateur mental que vous êtes. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'y arrive pas en Coupe d'Europe ?
Alors, le côté, c'est qu'effectivement…
On a parlé hors antenne.
Mais bien sûr, on en a parlé un peu hors antenne. C'est un petit peu un côté d'un paradoxe. Le côté, c'est qu'aujourd'hui, pour en revenir au côté de la préparation mentale des sportifs, aux États-Unis, la préparation mentale des sportifs est quelque chose qui existe depuis plus de 15 ans et qui est un vrai point. C'est-à-dire qu'on sait que ça apporte des choses. Et on sait que ça a un gros impact, mais un gros impact positif. Nous, on est toujours dans un côté où on pense que… Alors, certains pensent que c'est du charlatanisme, alors que pas du tout.
Oui, parce qu'il n'y a pas le côté marabout.
Oui, mais c'est ce qu'on pense. Voilà, c'est-à-dire, dans la tête des gens, en fait, on pense que c'est quelqu'un qui vient, qui va invoquer les esprits du cerveau du sportif. Mais pas du tout. Enfin, moi, je suis certifié. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord que sur le marché, il y a à boire et à manger. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Puisque tout le monde, c'est ça le problème. Moi, je me bats pour ça et j'espère qu'un jour…
C'est un peu comme les agents de joueurs.
Il faudrait que tout le monde soit certifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être coach. Tout le monde peut être coach. Et ça, c'est un vrai problème. Alors qu'il y a des coachs certifiés, comme moi, je suis. C'est-à-dire, je me suis fait certifier. Et c'est une vraie certification RNCP d'État. Où là, effectivement, on n'est pas dans le charlatanisme. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a un protocole et on travaille avec un vrai protocole. Mais aujourd'hui, vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, ils ont quelqu'un qui va s'occuper de leur corps. Ils ont un préparateur physique. Ils ont quelqu'un qui va s'occuper de leur nutrition. Ils ont des nutritionnistes qui vont s'en occuper. Ils ont un préparateur qui s'appelle l'entraîneur qui va les préparer sur les entraînements et sur la tactique, etc. Ils n'ont personne, dans le football en tout cas, ou très peu, qui va préparer le mental, c'est-à-dire le cerveau. C'est-à-dire qu'on se dit, dans le football, qu'en fin de compte, le cerveau ne sert à rien.
Il n'y a pas des sophrologues.
Alors, il y a des sophrologues, mais la sophrologie, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que la sophrologie, ça permet effectivement de passer un cap et de vivre des émotions en direct. C'est-à-dire que vous avez un choc, un sophrologue va pouvoir vous faire travailler. Elle peut vous faire travailler sur plusieurs séances, mais le côté, c'est que le coaching mental et le coaching en global, puisque moi je le travaille beaucoup avec les dirigeants d'entreprise aujourd'hui et les managers d'équipe commerciale et autres, c'est à la fois travailler sur une problématique, mais aussi apporter des outils qui vont faire qu'au bout d'un moment, avec ces outils-là, vous allez repartir après, une fois que vous aurez traité ce côté-là, quand ça reviendra. Par exemple, on peut prendre un exemple aujourd'hui au PSG, par exemple. Icardi, quand on le fait venir de l'Inter au Paris Saint-Germain, c'est un des meilleurs buteurs du championnat italien. Donc, il n'a pas perdu son football. Après, le côté entre sa vie qui est compliquée
ou
autre…
Donc, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on rentre dans la vie privée du sportif. Il faut très bien le connaître.
Oui, le préparateur doit rentrer.
Fatalement.
Le préparateur doit rentrer avec lui dans cette problématique-là. Vous, par exemple, on prend tout un chacun. C'est-à-dire que demain… vous êtes employé dans une société, vous divorcez. Le lendemain, vous n'allez pas au boulot dans les mêmes conditions, vous ne faites pas votre travail de tous les jours dans les mêmes conditions, parce que vous vivez un divorce. Quand vous vivez un décès, pareil, vous avez un enfant qui a eu un accident, etc. Mais les sportifs, ce n'est pas des machines, c'est des humains.
Et c'est pareil, on gère des chefs d'entreprise comme des sportifs.
Alors oui, parce
c'est peut-être encore plus compliqué, le sportif.
Non, c'est pas compliqué parce que…
Il y a l'attente du résultat au bout.
Oui, mais l'entrepreneur, pareil. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui a 200 salariés. Vous prenez un entrepreneur qui a 200 salariés. Et il a le stress des objectifs, du fait de la concurrence. Est-ce qu'il va licencier? Est-ce qu'il ne va pas licencier? Donc, Il a des problématiques. Il a un conseil d'administration aussi. Si c'est une très grosse entreprise,
ou des actionnaires.
Mais voilà. Mais le problème, c'est qu'il est souvent seul avec face à soi-même. Ouais. Et là, avec la préparation mentale, on va le travailler. On va faire un effet miroir, ce qu'on appelle un effet miroir. L'effet miroir, c'est que on va l'écouter et avec un protocole de questionnement, on va le faire travailler pour aller rechercher en lui-même. Le coach n'est pas un conseiller. Hein. C'est-à-dire que le coach n'apporte pas une solution. Il fait émerger,
il accompagne,
avec un protocole, les solutions qui sont à l'intérieur de la personne. Mm-hmm. Puisque vos solutions à vous ne sont pas les mêmes que celles d'Abou ou que les miennes. Okay. Donc, on va les faire travailler avec un protocole qui est spécifique. Ouais. Voilà. Mais le côté, surtout, ce que je veux faire poindre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie possibilité pour les coachs. Parce que dans le football, en fait, on a du mal à faire rentrer la préparation mentale parce qu'on sait que le préparateur mental vient quand il y a un problème. Si ça passe pas bien, il n'y a pas de... Donc, soit avec un joueur, soit avec une équipe au global, un traumatisme, comme on peut parler de Paris par exemple sur les Coupes d'Europe, soit avec des défenseurs, soit avec des attaquants global, en tout cas une problématique. Et donc le préparateur mental, quand il vient, il va obligatoirement faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus ce problème. Et donc on va passer d'un côté où il y avait un problème à un moment donné où il ne va plus y en avoir et où ça va mieux marcher. Et la problématique du coach aujourd'hui, c'est de se dire on savait qu'il y avait un problème avant. Si on sait que je fais venir un préparateur mental et qu'après ça va mieux, et bah ça, ouais, on dira que les résultats, ce n'est pas, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au préparateur mental. Mais là, il y a une solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voudrais dire à tous les coachs de foot notamment, parce que les autres coachs, l'athlétisme, on a la préparation mentale.
C'est des sports individuels aussi.
Oui,
hein,
voilà, c'est exactement ça.
Dans un sport individuel,
Pour eux, dans leur tête. Mais vous savez que ça, c'est ce qu'on essaye de se dire, c'est-à-dire qu'on essaye de se dire c'est plus facile. Mais en fin de compte, une équipe de foot, c'est une somme d'individualité. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec chaque individu. Oui, donc c'est pareil, c'est un sport individuel à la base. Oui. Puisque l'attaquant qui ne marque plus, c'est pas l'équipe qui a un problème. Oui. C'est l'attaquant qui a un problème. Et donc il faut le travailler. Et ce que je veux dire aux coachs aujourd'hui de foot, c'est n'ayez pas peur de la préparation d'un préparateur mental. Au contraire, faites-vous-en un allié. Et moi, je vous dis que ça peut marcher si on fait ce que moi j'essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire un contrat en tripartie. C'est-à-dire que c'est le coach qui va... Déjà, le préparateur mental ne doit pas être salarié du club. Il doit être intervenant extérieur parce que les personnes avec qui on va travailler, les joueurs, doivent avoir un espace et ne pas avoir l'impression...
Puis un autre regard aussi.
Exactement. Voilà, donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout de faire... C'est le coach qui va demander au préparateur de venir pour un besoin. Et là, on va demander... au joueur, par exemple, s'il est d'accord, parce qu'il faut qu'il soit d'accord. Comme je dis toujours, vous pouvez être le meilleur préparateur mental du monde. Si la personne en face, elle n'a pas envie, vous n'arriverez à rien. Et là, on fait une tripartie. C'est-à-dire que le coach sera toujours au courant. Et surtout, il faut garder le préparateur mental en homme de l'ombre. C'est-à-dire qu'il doit travailler à l'intérieur du club sans que... Voilà, moi, en tant que préparateur mental, je ne suis pas dans le côté des journaux ou de devant de la scène. Le devant de la scène, c'est le chef d'entreprise ou le coach de l'équipe. Moi, je travaille à l'intérieur et après, je lui donne des outils pour qu'il puisse travailler et que ses joueurs soient mentalement en capacité de pouvoir faire leur travail.
Et là, vous travaillez avec quelques sportifs pour l'instant ?
Pour l'instant, pas encore, parce que j'ai commencé à faire mon offre et le but, c'est de rentrer. Mais le monde du sport aujourd'hui, en France en tout cas, en fait, sans connaissance, c'est compliqué. Donc là, on commence à faire, on en parle avec des contacts que j'ai et que vous connaissez. Et effectivement, c'est là qu'on commence à faire. Le côté, c'est qu'une fois que vous êtes rentré et que vous avez montré ce que vous avez la possibilité de faire, après, effectivement, vous pouvez travailler.
Et pour l'entreprise, il y a des effets bénéfiques quand même. Il y a des résultats quand même.
Mais il y a toujours des résultats. Je peux vous dire que
il y a eu des exemples à France Télécom, ça s'est pas bien passé par exemple.
Mais totalement. Ouais. C'est-à-dire que le côté de France Télécom, c'est qu'on a voulu faire rentrer à l'époque. En fait, on a voulu passer une société qui était une société indirectement de fonctionnariat au privé, c'est-à-dire qu'à l'époque France Télécom qui est devenue Orange, en fait les personnes n'avaient pas d'objectif puisqu'il n'y avait pas de concurrence. Et du jour au lendemain, on est arrivé à la concurrence et donc on a dit aux gens, vous allez avoir des objectifs, donc vous allez avoir du stress, etc. Et on a fait venir des managers de l'extérieur sans les former, sans les coacher, et qui sont arrivés avec perte et fracas pour dire, faut faire ça, ramène-moi tous les jours. Et donc les gens n'ont pas supporté. Et donc après, une fois qu'on a vu la catastrophe que c'était, là on a fait venir des coachs et autres, etc., pour refaire venir un management. Aujourd'hui, un manager ne doit pas être un manager de ce qu'on a. On a trop travaillé sur le côté du manager carotte et bénéfice. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sur un manager leader, c'est-à-dire que l'équipe soit autour de son manager. Mm-hmm. Et ça, on le travaille d'abord avec le manager et après avec l'équipe.
Les mentalités, mais totalement. Genre,
totalement. Ouais, totalement. Mais même pour l'entreprise. Oui, c'est-à-dire que vous voyez les résultats qui explosent. C'est-à-dire que vous voyez des personnes personnels qui sont autour de leur manager, qui sont contents de venir en entreprise et qui sont contents de délivrer des résultats.
Mais c'est vrai que c'est essentiel dans le monde du sport aujourd'hui. Moi, j'ai vu récemment un documentaire sur Netflix qui parlait de Marty Fish, qui est un ancien tennisman numéro 1 américain et qui, lui, était à la fin de sa carrière prise de crise d'angoisse, de panique. Et il a dû, il pense plus qu'on n'en parlait pas beaucoup à cette époque-là et personne n'en parlait dans le monde du sport. Il s'est senti seul, il n'a pas pris de préparateur mental et malheureusement, ça a causé la fin de sa carrière. On a Romain Grosjean en Formule 1 en 2012 qui, après plusieurs crashs, n'arrive plus à se mettre dans la voiture, à se visualiser pardon, au Grand Prix. Et il dit qu'effectivement, le préparateur mental et une psychologue l'ont énormément aidé parce que enfin, il s'est laissé aider et il en a parlé. Et d'autres pilotes se sont dit « Ah, pourquoi pas ? Pourquoi j'essaierai pas moi-même ?» Et maintenant, aujourd'hui, je connais très peu de pilotes de Formule 1 ou de rallye ou de MotoGP qui n'ont pas un préparateur mental pour les aider. Parce que...
Oui, et puis on a vu des exemples. Tiens, ça me fait penser à ça. Marie-Jo Perec, qui s'échappe et puis qui craque à Sydney. Bice, l'américaine, qui au jeu de
mais vous
sur
le voyez
Tokyo,
où...
elle a...
Mais voilà. Aujourd'hui, vous voyez sur un exemple qui est encore en compétition. C'est vous voyez Benoît Paire.
Oui. Bah voilà. Ouais.
Benoît Paire, c'est un génie du football. Hein. C'est un génie du tennis. Hein. Ah oui, il faut savoir que.
Il pète des plombs comme ça.
Voilà. Mais voilà. Et donc, il a un tennis extraordinaire. Ouais. Il faut le savoir. Enfin, réellement, c'est un très, 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 très bon tennis.
On le voit encore ce week-end. Je veux dire,
je crois qu'il a fait top 10 à un moment donné. Vous ne rentrez pas top 10 à l'ATP comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. Mais son mental, il le dit lui-même. Il est friable, il est compliqué, et donc ça doit se travailler. Ouais. C'est obligé, globalement. Et juste pour finir sur ça, le côté, c'est ce que vis-à-vis que de ton intervention, il faut savoir que le plus gros tabou dans le sport professionnel aujourd'hui, c'est la dépression. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs
qui sont
en activité, de temps en temps, ont une dépression, et surtout, ils ne le disent pas parce que je ne suis plus sur la feuille de match. Alors qu'on pourrait le travailler avec un côté de préparateur mental, totalement tranquillement dans l'ombre, qui continue à travailler et qui fasse évoluer et bouger ce côté.
Parce que dans le sport, on a assimilé dépression et faible, et ce qui n'est pas du tout le cas, parce que quand on voit qu'après, Marty Fish justement avait été salué par Serena Williams, par Roger Federer et tout, qui l'avait salué, eux, ils n'avaient pas ces problèmes, mais d'en parler, parce que c'est vrai que des fois, ils disaient, on est à la limite, si on n'est pas aidé, on est à la limite de la dépression, et puis après, on est considéré comme faible, alors que notre talent il est toujours là, notre niveau est toujours là, mais... C'est juste le mental qu'il faut.
Il y a eu l'exemple du PSG en 96. Hein,
totalement, avec Yannick
Noah. Deniso demande à Yannick Noah de venir. Noah, on a souvent parlé, ça n'a pas toujours été évident pour lui de trouver sa place.
Non, parce qu'en fait, Luis Fernandez, il faut le comprendre. C'est-à-dire que Luis disait, ok, je veux bien que Yannick vienne, et il l'a toujours dit, je veux bien que Yannick vienne, mais... Il va manger avec les joueurs, il s'occupe des joueurs en dehors, etc. Mais il n'entre pas dans le côté du vestiaire et il n'entre pas sur le banc de touche. C'est les deux seules choses qu'il a demandé. Mais c'est très bien. Ouais. Je veux dire, un préparateur mental n'a ni à être dans le vestiaire, ni à être sur le banc de touche. Il a à travailler en amont. Ce qu'a fait Yannick Noah, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, c'est pour moi, effectivement, il n'était pas préparateur mental à l'époque, mais on a vu ce qu'il a fait en Coupe Davis, etc. C'est le prototype même mentalement du préparateur mental, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va galvaniser, qui va augmenter, qui va te remonter. Voilà, donc il est venu, les joueurs avaient, il faut le dire à l'époque, il y avait un petit peu de problématique entre le staff et les joueurs. Ça arrivait à aller avec des résultats, puisqu'on arrivait en finale.
Et gagner.
Bien sûr. On voit que, est-ce qu'on aurait gagné ? Parce qu'il fallait ramener un petit côté, un petit peu, voilà, de changer les têtes et de sortir ce côté-là. Yannick Noah l'a fait, elle l'a très bien fait.
Un peu de fraîcheur.
Et c'est un petit peu ce côté-là qu'aurait dû donner l'impulsion au club pour dire, voilà, le mental, c'est très, très, très important.
C'est vrai qu'il est exceptionnel sur ça. On le voit d'ailleurs, c'est ce qu'il a forgé son fils, Joachim Noah. Dans ça, ce qui lui a permis de réussir aux États-Unis et puis en NBA. Donc,
bien sûr, la nageuse de Manodou aussi.
Vous
avez leur Manodou. Ça a été compliqué à un moment donné, avec le côté de l'histoire, l'italien, etc. Là, vous ne travaillez pas sur. Sa natation, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'elle est toujours aussi bonne. Mais par contre, ce qui a changé, et le fait que la coordination des jambes, des bras et autres, etc., ils sont faits par le cerveau. Et donc, si votre cerveau n'est pas là, vous ne marquez pas des buts comme avant et vous n'êtes pas comme avant.
Alors, pour finir là-dessus, il y a un bel exemple avec le Paris Saint-Germain, quelqu'un qu'on a connu, Denis Troche.
Totalement.
Qui s'est un petit peu reconverti, comme vous,
totalement.
Et qu'on a croisé après sur les routes du Tour de France avec avec Pinot. Ouais. Thibaut Pinot.
Denis Troche, c'est vraiment déjà Arthur Georges, quand il le fait venir au Paris Saint-Germain, il le fait venir pour ses qualités d'entraîneur, parce que c'est avant tout un entraîneur, et il a été entraîneur après le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il a fait Châteauroux, je crois qu'il a fait Le Havre, je crois. Ouais. Et voilà, mais il le fait venir aussi parce qu'il a, déjà dans la tête le côté de la préparation mentale et qu'il est déjà en avance sur son temps. Et Denis Troche, que moi je n'ai jamais rencontré, mais que j'aimerais bien rencontrer un jour, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a cette faculté. Ouais. Et il est bien maintenant dans son métier, il l'a choisi,
ouais,
il fait que ça. Et,
il intervient en entreprise. Ouais.
Et il est très bien, il est très bien pour ça.
Très bien, bon, on va finir avec les sports mécaniques. Il y a eu un sacré week-end de sports mécaniques. Tiens, je voulais simplement rappeler que le prix Qatar Arc de Triomphe, on parlait de Canaries,
oui,
a été gagné par Alpinista, monté par un jockey britannique, Luc Morris. C'était la 101e édition hier à Longchamp. Alors, week-end Valentin de sport mécanique, très dense, très riche, avec celui qui va rentrer dans l'histoire pour les rallyes, qui va devenir le plus jeune champion du monde des rallyes.
C'est ça.
Un Finlandais, Rovan Perä.
C'est ça, un Finlandais âgé de 22 ans. C'est la première fois qu'il est champion du monde et c'est le premier champion du monde finlandais depuis 2002. En rallye.
Ah ouais.
Donc c'est quand même exceptionnel.
C'est de sport automobile, surtout pour les rallyes. Hein.
C'est une première dans le sport automobile depuis 2007 avec le titre de Kimi Räikkönen en Formule 1 avec la Scuderia Ferrari. Donc les Finlandais, oui, on les a connus pour des grands moments de victoire et ça fait plaisir de voir encore un Finlandais sur la plus haute marche du podium.
Vatanen, un grand pilote finlandais.
Il a déclaré à la fin du titre, parce qu'il a gagné la course en Nouvelle-Zélande, ce qui lui a permis d'avoir le titre. Deuxième, Sébastien Ogier. Et il a déclaré « Ce titre veut dire beaucoup pour nous ». Après sa victoire en Nouvelle-Zélande, il espère qu'effectivement les Finlandais vont de plus en plus s'intéresser au sport mécanique et peut-être retrouver un Finlandais en Formule 1, en MotoGP, qui sait. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, depuis 2007, c'est un petit peu…
C'est-à-dire que ça avait été trusté par deux grands champions, Sébastien Loeb puis Sébastien Ogier.
Voilà, c'est ça. Hein. Et même en Formule 1, on a eu Kimi Räikkönen une année et après c'était très très compliqué. Donc c'est une première dans… depuis 2002, il a 22 ans, donc il avait 2 ans quand un Finlandais avait gagné.
Alors il reste deux courses, donc Rovan Perä champion du monde. Par contre, notre ami Verstappen, lui, va devoir patienter un peu.
Il y a le Grand Prix de Singapour très très compliqué ce week-end pour Verstappen. Déjà en qualification, il ne finit pas son dernier tour de qualif qui pouvait. Il avait une seconde d'avance sur Charles Leclerc qui a décroché la pole. Malheureusement, pas assez d'essence de la part de son équipe dans le moteur. Du coup, il rentre au stand, donc il part 8e. Alors, Charles Leclerc qui partait premier, malheureusement, a fini deuxième parce que sur le départ, tous ceux qui étaient de côté droit de la piste, la piste était très très trempée. On a eu un Grand Prix, on a eu sur 1h30, on a eu 1h15 de pluie, donc très très compliqué. D'ailleurs, Charles Leclerc déclara que c'est l'une des courses les plus compliquées de sa carrière, parce qu'on sait que le Grand Prix de Singapour est très très, il est physiquement très très compliqué. Et c'est une victoire du coup de Sergio Pérez, donc l'autre pilote de chez Red Bull, qui décroche sa troisième victoire après Monaco et Bakou. Et Verstappen qui était parti 8e finit 7e avec des faits de course très compliqués. Déjà au départ il perd 4 places, donc il part de 8e, il revient genre de la 12e place. Ça a été très très compliqué, donc Verstappen pas champion pour le moment. Hamilton qui partait 3e a fini 9e, donc très compliqué aussi du côté de chez Mercedes. D'ailleurs George Russell a fini 14e, donc Mercedes et Red Bull, ça a pas, à part pour Sergio Pérez, c'était compliqué. Et donc pour moi le pilote du jour c'est sans aucun doute l'Australien Daniel Ricciardo, qui on en parlait effectivement mentalement n'était plus... certains lui disaient plus apte à conduire dans une Formule 1 car il était habitué à être maintenant 15-16e alors qu'une époque à Red Bull il était tout le temps en première ou deuxième position. Il a fini 5e alors qu'il partait 16e, donc c'est une très très belle course pour lui. Donc il y a eu 6 abandons au total et on attend Verstappen.
Donc ça va le faire le week-end prochain.
Oui.
Au Japon, à Suzuka.
Rendez-vous au Japon dimanche à 7h du matin, heure française malheureusement. Ça va être compliqué, mais bon, on sera là pour voir peut-être le deuxième sacre de Max Verstappen en Formule 1.
Et puis en moto, ça se resserre aussi, plus que 2 points d'avance pour Quartararo.
Et oui, en Thaïlande, encore une mauvaise opération pour Fabio Quartararo, alors qu'il avait plus de 10 points d'avance sur le pilote italien Francesco Bagnaia. Il a malheureusement, il a été vraiment aspiré au départ, il partait quatrième, il a été aspiré vers les fonds de grille, il a jamais pu dépasser à cause de la pluie, du mauvais temps. En Formule 1 et en MotoGP ce week-end, les Grands Prix ont été retardés, le départ en tout cas de 1h, 1h30 tous les deux, donc c'est, ça a été très compliqué et Francesco a fini troisième. Il revient seulement à 2 points du français, donc là ça va être...
Il reste 3 Grands Prix. Hein,
3 Grands Prix, il est devenu le grand favori de la compétition. Fabio était fou de rage, il n'a même pas voulu parler à la presse à la fin du Grand Prix parce que Johann Zarco, qui est aussi un français en MotoGP et qui du coup aussi est avec une Ducati comme Francesco, a eu des consignes d'équipe de ne pas attaquer Francesco et de ne pas prendre la 3ème place. Donc malheureusement ça crée un peu un froid. En l'espace de quelques Grands Prix, il a quand même perdu, sur les 7 dernières courses, Fabio a perdu quand même 89 points d'avance.
Donc c'est peut-être là qu'il faut un préparateur aussi parce qu'il commence à douter là.
Bah là c'est les 3 derniers Grands Prix et on sait que ça va être
là on doute hein, on
est, là, voilà. Voyez, c'est-à-dire vous pouvez travailler des choses mais vous pouvez aussi travailler une fin de choses où par exemple pour un tennisman quand on commence à monter match, les classements à conclure le match là aussi c'est pareil pour le côté de la MotoGP au bout d'un moment on est le leader et puis on fait une première défaite et puis une deuxième et on se dit oula c'est pas une spirale et là effectivement c'est du mental.
On voit avec un Charles Leclerc qui était vraiment favori cette saison ou Lewis Hamilton l'année dernière qui perd sur le dernier Grand Prix son 8e titre et il a eu du mal à revenir et justement le préparateur mental a été une pièce essentielle pour revenir.
Alors justement on va finir avec Eric, on en parlait un tout petit peu, alors pourquoi le Paris Saint-Germain, vous l'homme de l'ombre n'y est pas arrivé en Coupe d'Europe, qu'est-ce qui a manqué?
Moi je pense que ce qui a manqué c'est
tous ces autres grands clubs,
c'est de la mentalité, c'est du mental, le football ils l'ont. Oui, c'est-à-dire que déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde veut, enfin il y a 10 équipes qui veulent la gagner chaque année et à la fin il y en a qu'un.
Oui, donc, mais à chaque fois l'histoire se répète et puis de toute façon c'est incroyable quand même.
Non mais bien sûr, mais on voit quand
Paris se saborde pratiquement.
Ouais, mais on voit avec moins de pression on voit que c'est le mental parce que moi j'y étais,
il y a eu Barcelone, il y a eu Manchester, il y a eu l'autre Manchester City,
mais justement pour vous montrer que c'est dans la tête et dans le mental des joueurs et qu'il faut travailler sur ça. Moi j'étais au Final Eight, j'étais à Lisbonne à cette époque-là et on voit qu'on fait finale et on fait finale parce que c'est quelque chose qui est différent, c'est-à-dire
sur un match faut savoir.
Non, pas sur un match, mais même on fait les matchs puisqu'on gagne les matchs petit à petit. Contre l'Atalanta de Bergame, on va pour le perdre et on va jusqu'à la fin pour le gagner. Mais il n'y a pas le contexte de tout ça.
Mais Paris n'arrive jamais à faire deux bons matchs en Coupe d'Europe. Ils font un match sur deux bien, un match et demi bien, mais il manque toujours le petit quelque chose.
Il y a ce côté de mental et il faut travailler.
Souvent quand on est dans une position aussi très favorable.
Moi je sais que suivant ce club et que je le connais, l'équipe sur le terrain, on a l'équipe pour gagner la Ligue des Champions. Ça fait déjà 2, 3 ou 4 ans. On a eu des coachs, etc. Puisqu'on a eu Thomas Tuchel et après il gagne avec Chelsea. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Après il faut travailler sur le mental.
C'est difficile à retrouver après un match qui restera dans l'histoire du football comme la remontada.
Vous savez, c'est comme un décès. Vous pouvez, si vous travaillez derrière, vous pouvez le faire passer. Parce que les gens, ça s'appelle la résilience. La résilience aujourd'hui, c'est le fait d'absorber un choc et de pouvoir le surmonter et d'être plus fort derrière.
Malheureusement, il n'y a pas eu cette étape-là.
Les gens, tout un chacun, quand on a un décès, on l'absorbe, on le surmonte. Et puis si on le surmonte, on devient plus fort derrière. Et bien, vous pouvez le faire. Si vous ne faites pas travailler, malheureusement, c'est ce côté-là.
En tout cas, quelle joie. Mbappé, Neymar et Messi au Parc des Princes.
C'est
fabuleux quand même.
Moi, j'aurais jamais pensé avoir ces trois joueurs-là, les voir jouer dans mon équipe au Parc des Princes, ça c'est sûr. Après, le côté, c'est que ça n'amène pas que des choses positives parce qu'il faut arriver à les faire jouer tous les trois et trouver un système de jeu.
Ça,
parce que pour l'instant, c'est le championnat.
Hein.
Oui, c'est sur le côté de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que...
C'est peut-être le petit doute qu'on peut avoir. Est-ce qu'il va savoir gérer
qu'en tout cas, ça crée des choses en défense et qu'il faut colmater. En tout cas, on peut pas être enfant gâté et se dire que d'avoir ces trois joueurs-là, c'est pas un bénéfice. Mais il faut savoir jouer avec.
Très bien. Eric, merci en tout cas, ça a été un plaisir.
Merci à vous, c'était vraiment génial.
On rappelle le Space.
Hein. Oui, donc le Space, le Paris Show Game, donc avant et après match du Paris Saint-Germain, donc à tous les matchs qu'on fait, soit 18h, 20h, si les matchs sont à 20h, sinon en après-match.
Donc il y en aura un mercredi après le match.
Exactement, il y en aura un avant-match, un avant-match vers 18h, contre Benfica, et un après-match aussi contre Benfica.
Très bien, on va saluer nos amis Eladji et Abou. On va saluer aussi Valentin. Rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Merci à Jason d'avoir été une nouvelle fois. fois de main de maître
top.
Aux manettes,
voilà,
top.
Merci
et puis
présent.
On termine, c'est votre troisième choix musical.
Ouais. Alors le côté, terminé. C'est que justement j'ai voulu faire un petit revival à ce que j'écoutais il y a très longtemps, et puis je voudrais faire une petite dédicace à mon ami d'enfance, avec qui se rappellera de ça. Donc on va écouter Donnell Jones, You Know What's Up, et on écoutait ça donc le côté R&B dans voiture, et donc voilà, okay. C'est pour lui.
Eh ben on finit là-dessus. Bonne soirée.
Merci,
à toutes
bonne
et à
soirée
tous.
À tous et à tous.
Et rendez-vous la semaine prochaine.
Bonne
soirée, salut.
Et merci.
Serious, I'm curious to see what you got. My love is furious, 'cause I believe in blowing up spots.
Yeah.